aujourd'hui, on se retrouve pour une émission d'actualité. Et donc, on va attaquer tout de suite sur où en est-on de la crise du capital, pourquoi la crise du coronavirus dure-t-elle et en quoi la crise terminale n'est pas un moment, mais une époque. Donc, Francis, si vous voulez commencer là-dessus, on va commencer général sur la crise du capital et après, on va aller dans l'actualité plus immédiate.
Alors, votre question est importante parce que précisément, en posant la question du pourquoi ça dure, ça pose la question de la réalité généalogique du phénomène et ça nous permet de faire la liaison avec l'émission que nous avons faite sur la dialectique. C'est-à-dire que le capital est une réalité historique. Le capital est un rapport de production totalitaire qui vient signifier le pouvoir absolu de la domination réelle de la marchandise totalement achevée. Mais comme nous l'avons vu dans l'émission sur la dialectique, y a un parcours, une organicité, et la dialectique, c'est cette compréhension déterministe des moments où la position, l'opposition crée une réalité historique. Le capital est histoire, le capital est devenir, comme tous les modes de production, même s'il a effectivement une spécificité particulière, mais en tant que rapport de production et en tant que formalisation de ce rapport de production, il découle d'une dialectique des forces productives et il découle de toute une série de cheminements dialectiques qui font qu'il est parce qu'il devient le parcours contradictoire de lui-même. Et le capital ne s'arrête jamais. En guerre commerciale, en guerre militaire, en affrontement géopolitique, en lutte de classe, en guerre sociale, le capital est un devenir. L'histoire ne se congèle jamais. L'histoire ne se congèle jamais. Et là, effectivement, depuis de longs mois, à l'échelle mondiale, on assiste à une cristallisation-congélation où le devenir des forces productives ne peut plus se produire comme mouvement éclatant de la mondialité en devenir. Tout s'arrête. C'est ce qu'à travers les travaux de Marx, nous avons positionné dans la jachère, dans la mise en friche, dans l'impossibilité objective pour le capital de continuer à se reproduire dans les formes qu'il a toujours eues, qui sont celles d'un devenir effectif, de la reproduction élargie, de la plus-value, de la réalisation, de la vente, de la structuration toujours davantage accomplie du marché mondial. Et donc, quelque part, nous sommes alertés par quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire. L'histoire est le devenir de l'aliénation, et à un moment donné, l'histoire, dans ce parcours d'aliénation, nous dit, je ne peux plus devenir. Je n'arrive plus à fonctionner dans ma reproduction, dans mon extériorisation. Je me cristallise dans une congélation. Et là, on est au cœur de quelque chose qui est absolument décisif, puisqu'on a vu, à la suite de plusieurs émissions, que la grande fantasmatique du renoncement, la grande idéologie de la capitulation, du refus d'envisager des grandes fractures, s'était construit dans les années 80 autour de ce fantasme qui voulait qu'à un moment donné, le capital allait s'autonomiser de ses contradictions constitutives. Le capital, alors on avait toute une série de blocs politiques pro-capitalistes qui disaient c'est génial, le capital a dépassé ses contradictions, et puis on avait toute une série de groupuscules et de chapelles qui théorisaient le fait que le capital avait tout digéré et c'est en cela qu'ils étaient des faux révolutionnaires, disaient finalement, c'est malheureux, mais le capital a tout digéré. Donc, on a vu se créer à la fin du siècle dernier une religion de l'arrêt de l'histoire qui nous expliquait que le capital avait quelque part digéré ses contradictions et qu'il s'autonomisait de cette contradiction explosive qu'il traverse et donc que finalement il avait la voie du cheminement perpétuel. Et là, qu'est-ce que vient nous dire la crise du coronavirus? Elle vient nous dire que cette idée qui est anti-dialectique, parce que nous avons parlé dans notre émission sur la dialectique de la lecture du Capital, et nous avons expliqué qu'il y avait deux lectures du Capital. Il y avait la lecture statique et additionnelle des énoncés de paragraphes, de sections et de chapitres, qui était finalement quelque chose de néo-kantien et de non-explosif dans le pantareil héraclitéen, tel qu'il pose la dialectique de l'histoire chez Hegel et tel qu'il pose la critique communiste chez Marx. Au bout de la lecture qui est bien faite, qui est bien travaillée, j'ai cette unité dialectique supérieure qui fait que quand je suis dans la baisse du taux de profit, je ne suis pas simplement dans les tendances et dans les contre-tendances, je suis dans une unité organique conceptuelle supérieure qui me dit d'emblée que le capital est condamné à mort. Le capital est condamné à mort par sa logique substantielle, parce que la dialectique me dit que le capital a une auto-présupposition. Ce sont ses contradictions constitutives, et que ces contradictions constitutives sont son auto-présupposition. Et dans ce cheminement dialectique qui fait que se crée le déroulement du temps historique de l'aliénation, et donc le temps historique de la contre-aliénation dans le cadre des luttes de classe, j'arrive précisément à un moment qui n'est pas ce fameux moment pathologique, idéologique, qui n'existera jamais, le moment où le capital s'autonomiserait de ses contradictions. J'aboutis à ce moment où le capital, ayant cru s'autonomiser de ses constitutions contradictoires, se les prend en pleine gueule et rentre dans un processus où il est incapable de s'extérioriser. Et donc là, ça va pratiquement, on est pratiquement sur une durée qui nous amène déjà à un an. Le capital avoue, le capital nous dit, ben non, je ne peux pas m'autonomiser de mes contradictions constitutives, parce que mes contradictions constitutives, même si j'ai le délire idéologique et pathologique dans le cadre de l'idéologie du fétichisme de la marchandise, de m'en extraire, elles reviennent, elles m'écrasent, elles m'incarcèrent, et la saturation des marchés, la baisse du taux de profit, la composition organique explosive font que je ne peux plus fonctionner. Et donc, derrière la crise du coronavirus, derrière le mensonge de la crise du coronavirus, alors on va pas épiloguer sur le mensonge du coronavirus, les statistiques de l'INSEE, la mortalité, toutes les problématiques sanitaires, tout esprit un tant soit peu intelligent, au bout de quelques minutes de recherche, voit qu'entre les statistiques officielles de la domination démocratique totalitaire du capital et la réalité biologique, il y a une antinomie explosive. Donc ce truc-là, c'est basique et c'est d'une totale évidence. Donc le coronavirus est un mensonge étatique de masse, structuré dans un rapport de production mondiale, d'imposture et de neutralisation de la guerre de classe qui va surgir. Mais pour la première fois dans son histoire, depuis le surgissement de la valeur d'échange néolithique, l'équivalent général abstrait, c'est-à-dire la mesure de notre aliénation qui doit tourner, qui doit bouger, qui doit s'extérioriser, s'arrête, et elle nous dit « je ne peux plus fonctionner ». Donc ce « je ne peux plus fonctionner », ça nous engage à avoir une lecture radicale du capital qui ne se fait pas simplement comme pouvait le faire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le fameux truc « lire le Capital », Balibar, Rancière, dans les années 65, lecture stalinienne complètement débile, mais il peut y avoir un lire le Capital trotskiste, il peut y avoir un lire le Capital maoïste, il peut y avoir un lire le Capital même libertaire, il peut y avoir un lire le Capital gauchiste, il peut y avoir un lire le Capital ultra-gauchiste. La critique communiste ne lit pas le Capital. Elle lit le capital dans un mouvement d'incarnation radicale pour en dépasser les sections, les chapitres, les livres, et pour arriver à cette unité d'ensemble, livre 1, production, livre 2, circulation, livre 3, unité des trois, dans une dialectique historique radicale qui dit la mort du capital. C'est-à-dire que quand je lis le capital, je ne tergiverse pas entre les tendances, les contre-tendances, le capital avance, le capital recule, il monte en haut, et puis il descend en bas, il tourne à gauche, et puis il tourne à droite. Je ne gesticule pas dans des catégories intellectuelles de subjectivité analytique. Je suis dans une matrice objective qui s'appelle la lutte des classes, qui s'appelle la dialectique de l'histoire universelle, et au bout de toute cette lecture, je débouche sur cette fameuse post-faste que Marx a souligné, a sursouligné. Le capital, c'est l'histoire de la mort du capital. C'est l'histoire de la mort du capital. Il y a un moment donné où le capital s'invalide, et c'est la seule chose qui nous intéresse, parce que nous sommes sur le terrain de la lutte de classe, sur le terrain de l'abolition de l'État, sur le terrain de l'abolition du salariat et de la marchandise. À un moment donné, les auto-présuppositions du capital deviennent les auto-présuppositions de la mort du capital. Et ce coronavirus doit être analysé du seul point de vue qui lui donne sa signification historique, saturation du marché, baisse du taux de profit, composition organique de plus en plus impossible pour la reproduction du capital. Et là, nous y sommes parce qu'à chaque émission qu'on a fait où on a parlé du coronavirus, on a positionné quelque chose qui ne pouvait plus se désengager de sa matérialité crisique. On est dans une matérialité crisique infinie. Là, le gouvernement prolonge l'état sanitaire, janvier, février, avril, pourquoi pas juillet, pourquoi pas octobre. Mais faut que les gens qui nous écoutent comprennent, et on y reviendra tout à l'heure quand on fera une critique radicale du concept d'ingénierie, quand on fera une critique du concept de réinitialisation statique. C'est-à-dire que l'État ne veut pas contrôler. L'État veut contrôler parce qu'il y a une crise radicale de la marchandise. Le contrôle sanitaire, le contrôle policier, le contrôle totalitaire, si je veux comprendre pourquoi il est ce qu'il est dans ce délire de plus en plus généralisé, c'est parce qu'il y a une réalité qui s'appelle la baisse du taux de profit, qui s'appelle la crise du capital, et aujourd'hui, le capital ne peut plus reproduire la production de ce qui fait son auto-présupposition. On est donc rentré, alors on y reviendra tout à l'heure, moment, époque, dans ce que Marx appelle les débuts de la crise mortelle du capital.
Alors ça, c'est vachement important. Et en plus, on en parle la semaine suivante de notre émission sur la dialectique, parce que ce n'est que la compréhension de la dialectique qui nous donne la réponse. Là, on est dans le cadre où le capital s'arrête et dit qu'il ne peut pas redémarrer, sachant qu'on sait que le capital, c'est la réalisation d'une plus-value sur une échelle élargie constamment reproduite. Et le capital dit lui-même, je m'arrête, il reproduit idéologiquement cet arrêté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus les mois avancent sur la chloroquine, etc., tout le monde se rend compte qu'on n'a pas arrêté l'économie pour sauver les hommes, mais on a arrêté les hommes pour sauver l'économie. Et on se dit, mais comment ça se fait ? Le but du capital, c'est que ça tourne, et il dit, je ne veux plus tourner. Ça peut sembler complètement fou au départ. On se dit, mais c'est presque anticapitaliste de la part du capital. Et si on n'a pas cette compréhension dialectique des contradictions et des tendances et des contre-tendances, on ne peut pas comprendre que tout ce qui arrive est rationnel. C'est-à-dire que la folie qu'on voit à la surface des choses, où on se dit le capital fait des choses complètement absurdes, en réalité, elle est rationnelle parce qu'elle est réelle. Ça, c'est Hegel, et Marx, qui reprendra Hegel, dira la même chose. C'est-à-dire que tout le réel est rationnel et tout le rationnel est réel. Et il s'agit de voir derrière le phénomène du coronavirus qui s'annonce, qui n'arrive même plus à se maintenir, parce que là, on est dans un confinement qui n'a presque plus aucun sens. On redémarre, on arrête, on confine les gens. Même le gouvernement n'arrive même plus à se maintenir idéologiquement. Il hurle dans les parlements, ils n'arrivent même plus à convaincre les gens. C'est une crise de la socialisation. Mais si on arrive à cette situation-là, c'est bien parce que c'est le cheminement logique du capital. Tout est logique. Tout est logique, tout est rationnel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des cycles dans le capital où il y a des possibilités de restructuration à des moments donnés. C'est-à-dire que la mise en friche, c'est un concept qu'on a diffusé dans nos précédentes émissions sur le coronavirus, mais c'est un concept qui est exposé chez Marx dans le livre 3, dans le livre 4, dans les Grundrisse. Et c'est des moments où justement, c'est là qu'il faut, comme dit Francis, il faut dépasser le capital. C'est-à-dire que Marx en parle dans le livre 3 sur les contre-tendances. Il en parle comme un moyen crisique où justement, Alors, il y a des contre-tendances à tout, c'est-à-dire que tout est dialectique, tout roule et produit un opposé qui fait une recomposition. Il parle de la baisse du prix des moyens des matières premières, l'augmentation de l'armée de réserve. Alors, on le voit, il y a bien une augmentation du chômage, ça va être beaucoup plus facile pour négocier des salaires extrêmement bas, etc. Mais aujourd'hui, c'est complètement inessentiel. Et Marx aboutit dans ce passage qu'on diffusera peut-être d'ailleurs sur le site internet, sur les contre-tendances du capital qui produit une mise en friche. Il conclut, la mise en friche permet de redémarrer le capital à une composition organique qui aurait été rééquilibrée, qui repartirait à un seuil supérieur de crise. Donc il dit, la mise en friche permet de restructurer le capital. Mais quand il écrit ça, on est en domination formelle. Aujourd'hui, on est en domination réelle. C'est-à-dire que le capital, dans ces cycles de crise, il se valorise et il se recompose par la crise. Mais arrive un moment donné où le capital produit des crises qui ne peuvent plus se recomposer. Et c'était possible justement à l'époque parce que quelque part le capital dans ces crises, il fait, on dirait presque une cure de désintox ou une chimiothérapie où justement la dévalorisation qu'il produit, cette suraccumulation de capital, il va se dire je vais en partie la dévaloriser, mais je la dévalorise parce que je me dis j'ai une survalorisation après qui va me permettre de compenser, de repartir sur un nouveau cycle. Donc c'est crise, colonisation, reconstruction ou alors crise, guerre, reconstruction, etc. En domination formelle ou en domination réelle. Mais aujourd'hui, on est à un stade où justement, à l'époque, c'était la valorisation qui prédominait sur la dévalorisation. Mais aujourd'hui, ça fait un siècle entier de domination réelle où la dévalorisation a pris le pas sur la valorisation. C'est-à-dire qu'on a une suraccumulation de crédits pour compenser la baisse du taux de profit qui, justement, normalement, dans toute logique, le capital aurait dû s'arrêter avec la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. On se dit il a épuisé toutes ses capacités réelles, de mode de production réel de plus-value à le reproduire. Donc, s'il n'y avait pas le crédit pour justement reproduire cette dynamique fictive, le capital aurait dû s'arrêter. Sauf que justement, il a produit cette suraccumulation fictive pour se reproduire. Et si ça arrive aujourd'hui, c'est parce que cette dynamique de taux d'intérêt négatif invalide cette reproduction ad vitam aeternam de l'affectivité du capital. Et ce que veut le capital, mais ce qui est ridicule, ce qui est risible et ce qui est jouissif, parce qu'on sait que vraiment le capital est en face de quelque chose qui ne pourra pas redémarrer, c'est qu'il essaie de nous dire, entre les différentes fractions du FMI, on va annuler la dette, on va repartir sur une grande réinitialisation, alors on en reparlera tout à l'heure, c'est qu'il dit, quelque part, je n'ai qu'à me nettoyer, la situation n'est pas si grave, je ne suis pas autant en contradiction que ça. Alors qu'il ne se rend pas compte qu'il a un siècle de domination réelle à nettoyer. Il ne pourra pas sortir de cette crise, il ne peut pas redémarrer. C'est-à-dire que la dévalorisation a pris le pas d'une énorme mesure sur la valorisation. Et on est dans une. Et d'ailleurs, certains cyniquement le racontent, c'est que quand on écoute Jacques Attali, par exemple, qui nous dit quand est-ce que la situation redeviendra normale ? Deux points, jamais. C'est-à-dire que le capital assume que quelque part, on rentre dans une phase de terrorisme permanent qui n'est pas juste pour faire peur à la population, comme quoi l'ingénierie sociale serait le but ultime du capital, alors que ce n'est pas le but ultime, c'est qu'il y est contraint parce qu'il ne peut rien faire d'autre. On arrive à une époque où il y a un blocage intégral qui fait qu'on rentre dans une phase à la fois révolutionnaire, mais surtout d'autonégation totale. Le capital, dans sa crise de l'équivalent abstrait, il nie sa nature propre qui est de lier les hommes, d'être la force médiate, la force sociale qui lie les hommes entre eux. Il dit, je ne peux plus être cette force-là, donc restez chez vous. Je ne peux plus vous socialiser, mise en friche, confinement. On réduit un maximum et on attend que ça passe. Et ça ne passera jamais, parce que le capital, il est confronté...
Et c'est quelque part même transformez-vous en moi, transformez-vous en équivalent généraux abstrait, c'est-à-dire effacez vos visages, effacez vos sourires et devenez cette chose qui circule lamentablement d'une rue à l'autre avec des masques sans même pouvoir vous reconnaître. Donc quelque part, l'équivalent général abstrait dans sa crise terminale ne peut même plus circuler, mais il fait en sorte que nous nous transformons en lui afin de faire en sorte que cette crise, quelque part, puisse paraître comme étant venant de nous, si vous voulez. Donc c'est absolument prodigieux. Et ce qui est d'autant plus prodigieux, c'est que on va en reparler, c'est que la lutte sociale n'a pas encore ressurgi malgré tout cela. Il faudra qu'on en reparle. Sur aussi pourquoi les choses bougent un petit peu actuellement en Italie, mais pourquoi ça ne bouge pas encore tout à fait en France actuellement.
Alors ça a commencé à bouger en Italie, ça a bougé en Espagne. J'avais un correspondant qui m'a envoyé ce matin une vidéo sur l'Allemagne. Apparemment, il y a eu à Leipzig et dans différents territoires de l'Allemagne ex-orientale des manifestations. Bon, Ça bouge, mais si vous voulez, il y a toujours un décalage entre ce qui est perçu et ce qui fait bouger. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mécanisme d'horlogerie, on est dans une temporalité dialectique et le passage de l'en-soi au pour-soi produit nécessairement des décalages parce qu'il y a le mouvement entre l'en-soi et le pour-soi qui fait précisément décalement entre l'initialité et la reproduction. Donc il n'y a jamais, c'est ce que nous dit Marx dans les luttes de classe en France, il n'y a jamais d'automatisme immédiat entre une crise du rapport social, il n'y a pas un automatisme immédiat de réaction, parce que la conscience doit digérer sa perception. Entre le moment où la conscience perçoit le phénomène social de l'accélération crisique et le moment où elle l'intègre dans une compréhension-réaction, il y a toujours effectivement un temps de décalage. Mais ce qui est important dans ce que vous avez dit, c'est que, et là, quelque part, on bascule sur tout le problème de l'ingénierie. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'interrogent sur l'ingénierie sociale, etc., sur la maîtrise, sur les vaccins, sur le gouvernement du mondialisme messianique, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ingénierie sociale n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'ingénierie sociale de la marchandise. Quand on discute avec quelqu'un qui va mal à travers ses angoisses, ses blessures, ses dépossessions, et que du point de vue de la phénoménologie de l'esprit ou du point de vue des manuscrits de 44, on fait une analyse de sa conscience malheureuse individuelle, on lui dit le scénario familial n'existe pas, il n'est en tant que scénario familial que le produit du scénario mondial. Il n'a donc pas d'autonomie. Les consciences malheureuses individuelles sont le résultat historique de la dialectique des forces productives, de l'aliénation et de la domestication mondiale. C'est pareil pour l'ingénierie sociale. Évidemment qu'il y a aujourd'hui, dans le mouvement de l'histoire et de la dialectique des forces productives de la domestication, toute une série d'accumulations de spectacles organiques, de techniques d'oppression, de manipulation, de distorsion, d'avalement, de pollution, mais ça n'a pas de sens en soi. Cette ingénierie-là, elle est le produit de la marchandise. Donc si vous focalisez l'ingénierie en disant « Oh là là, le gouvernement mondial veut nous manipuler », alors on a les GAFA, on a Soros, on a Bill Gates. Bon, on crée une nébuleuse alchimique de complot contre l'humanité. Et une fois qu'on a dit ça, alors les maîtres veulent être les maîtres. Donc les maîtres veulent asservir les peuples. Ils veulent asservir les peuples. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être les maîtres. Pourquoi veulent-ils être les maîtres ? Parce qu'ils veulent asservir les peuples. On est dans une tautologie idéologique qui n'a pas de sens, parce qu'elle est totalement hors champ, hors sol du rapport de production et de la réalité de la dialectique des forces productives. Ce qui existe aujourd'hui dans cette vaste ingénierie mondiale de la domestication, c'est la marchandise, c'est la crise de la marchandise, c'est la crise de la baisse du taux de profit, c'est la crise de la saturation des marchés. Donc tous ceux qui voient qu'aujourd'hui, il existe bien une vaste systématique spectaculaire d'emprise et de domestication mondiale, mais qui ne la relie pas à la marchandise, à la crise de la marchandise, sont condamnés à ne rien comprendre. Il n'y a pas aujourd'hui un complot bancaire mondial contre les peuples et contre l'économie réelle pour asservir les gens, ça n'a pas de sens. Il y a une lutte de classe entre la classe capitaliste et le prolétariat mondial. Et si effectivement, c'est ce que montre Marx, il y a en domination réelle une prise de pouvoir de la sphère financière sur la sphère industrielle, elle est liée à la baisse du taux de profit, elle est liée à la dialectique des forces productives, elle est liée à la géopolitique de la saturation des marchés dans le cadre de tous les cycles que le capital a mis en mouvement, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, crise de 68, crise de 2008, entre les deux, crise de 1980. C'est-à-dire que celui qui ne comprend pas que l'axe essentiel de la formulation déterministe du devenir de l'histoire, c'est la lutte des classes à travers la crise du capital, à travers la marchandise totalitaire qui ne peut pas se reproduire, ne comprend rien au taux d'intérêt négatif. Il ne comprend rien au coronavirus. il ne comprend rien. Alors, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'il y a, ce grand fantasme de la réinitialisation. Mais si on ne comprend pas que la réinitialisation comme fantasme et le développement historique des forces productives de la marchandise à travers la crise du taux de profit, on en fait un fétiche. On en fait un fétiche, c'est-à-dire qu'au lieu de comprendre que tout est le produit de la crise du fétiche, et donc au lieu d'aboutir à une analyse radicale qui va abolir les fétiches, on reconstruit d'autres fétiches qui font qu'on ne comprend pas la source fétichiste de la crise première. Donc on en revient toujours à cet axe méthodologique essentiel tel qu'il est posé par Marx dans le cadre justement des luttes radicales des groupes ouvriers maximalistes. La crise du capital, est l'hiéroglyphe. On le met dans la phrase qui fait introduction. La crise du capital est l'hiéroglyphe qui nous explique le coronavirus. C'est l'hiéroglyphe qui va nous expliquer les élections américaines. C'est l'hiéroglyphe qui nous explique les campagnes terroristes. C'est l'hiéroglyphe qui nous explique cette peur absolument folle que le capital a du réveil de la lutte de classe. Le hiéroglyphe fondateur de tous les phénomènes historiques qui sont liés à la crise actuelle du fétichisme de la marchandise, c'est effectivement ce moment que nous avons diagnostiqué en 2018, quand avec la crise explosivement visible des taux d'intérêt négatifs, le capital a dit, et nous l'a dit, alors il faut l'entendre, le capital nous a dit, le gigantesque fantasme du crédit chimérique qui a été lancé à partir de la crise du dollar de 73 et qui n'a pas cessé de se répandre sur le monde dans cette crise de surproduction universelle, il est en train d'atteindre le point où plus rien n'est contrôlable. Donc nous sommes, on y reviendra tout à l'heure, nous sommes rentrés dans la crise terminale. La crise terminale, c'est le moment où le capital nous dit officiellement, le coronavirus finalement, c'est le confessionnal du capital. Le capital ne peut pas nous dire, vous savez, je vais mourir. Le capital est obligé de cacher qu'il va mourir. Mais au moment où il entre dans cette phase qui ouvre le chemin du grand cortège funèbre terminal, il est obligé, alors même qu'il veut le cacher, de l'avouer sous une forme fantasmagorique, puisque le fétiche de la marchandise parle sous des formes fétichistes. Et le coronavirus, c'est le langage fétichiste du hiéroglyphe de la fameuse section 1 du capital, par lequel le capital nous dit, pour se le cacher tout en nous le cachant, qu'il ne peut pas le cacher, qu'il est rentré dans cette phase où il ne peut plus reproduire le mouvement de sa reproduction. Et on y reviendra tout à l'heure, parce que bon, moi j'ai des correspondants qui me posent cette question, mais alors la crise terminale, ça dure combien de temps? Mais la crise terminale n'est pas un moment. Et là, on est au cœur de l'introduction de 1857. Qu'est-ce qu'un mode de production? Qu'est-ce qu'une temporalité qui dit la fin d'un mode de production? Précisément parce que c'est une temporalité, c'est une durée. À chaque fois qu'un mode de production atteint le point où il s'invalide, il entre dans une durée qui signifie concrètement sa décomposition. Mais les modes de production ont des siècles d'existence. Et comme les modes de production ont des siècles d'existence, leur invalidation ne se compte pas en secondes. Elle se compte en longue temporalité. Donc quand on dit le capital vient de nous signifier qu'il est rentré dans sa phase terminale, parce que justement, bien loin de pouvoir s'autonomiser, et je réinsiste sur cette formule-là, puisque tous les fantasmes d'éternisation du capital sont le résultat d'une vision idéologique antidialectique qui croit que le capital peut s'autonomiser de ses contradictions constitutives. Or là, le capital nous dit bah, « c'est la dialectique qui a raison ». Je ne peux pas m'autonomiser de mes contradictions constitutives. Je suis donc rentré dans une phase qui va durer un certain temps. Alors, nous y reviendrons. Qu'est-ce que le « un certain temps » Mais le capital nous dit « je ne peux plus me reproduire ». Et c'est ça qui est décisif. Taux d'intérêt négatif, crise du coronavirus, et longue durée. Parce que là, on est parti dans une prolongation mondiale sur avril, mais après, ce sera octobre. Après, ce sera juillet, les entreprises ne redémarreront pas. Les Airbus, les TGV, tout ce qui structure l'infrastructure globale de la reproduction industrielle fondamentale du capital est en train de se paralyser. Depuis la révolution néolithique de la valeur d'échange, c'est la première fois que l'équivalent général abstrait qui avait pris le pouvoir total sur la planète à partir de 1914, qui l'a accéléré à partir de 1968, qui l'a suraccéléré dans la représentation fantasmatique du crédit chimérique, nous dit « je ne peux plus fonctionner ». Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, parce que c'est décidé, il faut que les gens bossent. Alors, on peut lire le capital d'une manière idiote pour aboutir à un point d'interrogation, mais on peut lire le capital d'une manière intelligente pour comprendre l'affirmation dialectique de cette auto-décomposition historique. Donc, les gens nous écoutent, c'est très bien, mais introduction de 1857, le capital, les Grundrisse, les textes de guerre de classe, il faut creuser, parce que là, on est au cœur de quelque chose de substantiel qui dit tout l'avenir de l'humanité. Il ne faut pas se contenter d'écouter cette vidéo à partir de laquelle on lance des bouteilles à la mer pour que les gens se servent de ce qu'il y a d'intelligent dans cette bouteille pour comprendre leur vie et pour comprendre la mort du capital qui est en train d'arriver. Mais il faut bosser. Et on peut lire le capital de deux manières. Donc, contre toutes les lectures débiles qui aboutissent à rien, il y a la lecture radicale dialectique qui aboutit à la compréhension de la crise terminale et de la crise terminale inévitable, comme Marx le dit dans les Grundrisse, dans le Capital et dans le Manifeste, puisque la bande qui va se terminer à la fin de cette émission reprend cette formule du Manifeste, le Manifeste comme synthèse de concrétion de l'œuvre radicale des groupes ouvriers qui passait dans l'œuvre révolutionnaire de Marx, le prolétariat est le fossoyeur du capital. Et le capital va pas peut-être mourir. Le capital va pas peut-être mourir. On ne sait pas, c'est compliqué, c'est difficile. Le capital va mourir de manière inéluctable.
Et vous avez parfaitement raison de rappeler ça. C'est d'autant plus l'époque où il faut lire ces textes-là, parce qu'en fait, la classe capitaliste, en réalité, n'a absolument plus rien à nous dire. Alors, vous parliez tout à l'heure de la grande réinitialisation, du grand reset que la classe capitaliste essaye de mettre en branle. Alors, c'est le Great Reset des abrutis du Forum de Davos. Mais alors, si on lit le programme du Forum de Davos et du Grand Reset, qu'est-ce qu'on a ? On a en gros, il faut une gouvernance mondiale. Bah, c'est déjà le cas. Ils disent, il n'y aura pas de retour à la normale. Ça, on le savait. De distanciation sociale. Bah, ça, on le savait. Ils disent même, il y a une différenciation entre le capital et le travail et le capital va prendre le pas. Bah, ça, on s'en était rendu compte. Ils disent que le contrôle de l'État va s'accentuer, que la fiscalité va s'accentuer. Ils parlent du LGBT, de la technologie, de la démographie, de l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, cette classe capitaliste, elle n'a pas fait un programme en vue de dire, attention, je vais faire ça. Elle a fait un programme pour dire « actuellement, il se passe ça et je fais semblant de croire que c'est moi qui suis en train d'organiser l'ordre existant, mais quelque part, ça se passe déjà. On n'a pas besoin de leur programme de Davos, on n'a pas besoin de leur truc du Grand Reset, puisqu'ils ne font que dire ce qui existe déjà avant même que cette classe capitaliste en ait pris conscience. Donc, ces gens-là n'ont rien à nous dire, ils ne nous disent rien de nouveau et ils n'inventent rien. »
Et surtout, ils n'ont aucun pouvoir. Parce que la grande problématique de toute une série de groupes ou de chapelles qui critiquent la grande réinitialisation, au sens où la grande réinitialisation serait quelque part une gigantesque manipulation contre l'humanité. Alors, c'est une manipulation contre l'humanité, mais ce n'est pas une manipulation contre l'humanité, point. C'est une manipulation contre l'humanité, virgule, qui découle de la crise du capital et de la baisse du taux de profit. Il n'y a pas des grands industriels financiers mondiaux qui se retrouvent dans une salle de messianisme pathologique autour de la grande idole du monothéisme de la marchandise et puis qui disent « Ah, il faut qu'on contrôle plus les vaccins, la géolocalisation. » Ça, c'est une histoire d'enfant. Ce que nous fait comprendre le capital, c'est que ces gens-là n'ont aucun pouvoir, ces gens-là n'ont que des fantasmes, et quand ces gens-là établissent un plan de bataille, c'est la marchandise qui leur rend obligatoire d'établir ce plan de bataille. Ils n'ont aucune autonomie. Les cercles mondains du mondialisme de Bilderberg à Davos, en passant par toutes les loges maçonniques mondiales, du gouvernement, de la marchandise mondiale, n'ont jamais produit un seul millimètre de réalité théorique novatrice. Ils ne formalisent que les PV conclusifs de la dictature de la marchandise totalitaire obligatoire. C'est la marchandise totalitaire obligatoire dans sa crise du taux de profit contemporain inextinguible qui rend nécessaires ces projets-là. Et ce sont des projets de la lutte de classe, de la classe dirigeante mondiale contre le prolétariat mondial, parce qu'il y a une baisse du taux de profit et parce qu'il y a une crise généralisée de la marchandise mondiale. Il n'y a pas les maîtres du monde. Les maîtres du monde, ça n'existe pas. Il y a une classe capitaliste mondiale qui est surdéterminée par la baisse du taux de profit et par le diktat de la marchandise. Ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Ce sont les porteurs de valises de la baisse du taux de profit. Donc, et c'est ça qui est important. Alors, la grande réinitialisation, alors le capital a toujours produit des réinitialisations. Quand le capital, alors les crises du capital, de la domination formelle à la domination réelle, positionnent toujours à un moment donné, dans la géopolitique de la saturation des marchés et de la baisse du taux de profit, une crise de l'équivalent général abstrait dans ses formes d'apparaître, puisque bon, on sait que dans la dialectique, il y a la forme, il y a le contenu, il y a l'apparaître, il y a la substance, il y a le concept, et la forme apparaître de l'équivalent général abstrait, c'est bien évidemment l'étalon monétaire. Et donc, il y a une réinitialisation à un moment donné quand on abandonne l'étalon dollar. Il y a une réinitialisation à un moment donné quand on passe aux accords de Bretton Woods. Il y a des réinitialisations quand on passe du diktat mondial de la livre sterling au diktat mondial du dollar. Il y a une réinitialisation quand on passe des changes fixes aux changes flottants. Il y a une réinitialisation quand on passe du dollar accroché à l'or au dollar qui n'est plus qu'accroché à son automouvement solipsiste. Donc, des réinitialisations, il y en a eu plein. Et ce n'est pas des réinitialisations parce que les banquiers veulent diriger le monde. Les banquiers ne dirigent pas le monde. C'est la baisse du taux de profit qui dirige le monde et dans la domination réelle, la finance mondiale est un lieu de vampirisation stratégique, mais qui ne fait pas le pouvoir. C'est la crise radicale. Cette idée que l'économie fictive serait quelque chose qui vient assujettir l'économie réelle, c'est une compréhension historique qui est totalement inadéquate à la réalité objective de la dialectique des forces productives. On est encore dans le néo-proudhonisme. Il y a une banque usuraire qui vient ponctionner le travail productif. Mais ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est l'économie réelle qui, parce qu'elle est en crise objective du point de vue de la baisse du taux de profit et du point de vue de la saturation des marchés, crée des bulles spéculatives et financières. Les bulles financières et spéculatives ne sont pas quelque chose qui vient manger l'économie réelle. C'est la crise de l'économie réelle dans sa facticité crisique infinie, quand le capital rentre dans les cheminements qui le mènent à sa crise mortelle, qui crée le délire spéculatif du crédit chimérique. Donc, à part Marx, personne ne peut comprendre ce qui se passe. Et à part les groupes qui sont dans la trajectoire de Marx, personne ne peut comprendre ce qui se passe. Donc, le capital a constamment été réinitialisation. Quand la crise de l'équivalent général abstrait butait sur sa forme phénoménale dans toute cette histoire des étalons successifs, et là, on a effectivement une grande réinitialisation parce que le dollar est mort, l'euro va mourir, mais derrière, il y a la crise de l'équivalent général abstrait, non plus simplement dans ses formes phénoménales, mais dans la forme substantielle du fétiche de tous les fétiches de l'usine globale. Toute l'histoire de l'humanité, dans toutes ces crises, depuis que le capital est en mouvement, et toutes les crises du XXe siècle, sont des crises de l'équivalent général abstrait rapportées à sa forme phénoménale. Nous sommes rentrés dans la première crise, et il n'y en aura pas d'autres, où la crise de l'équivalent général abstrait n'est plus simplement en contradiction avec sa forme phénoménale, mais il est en contradiction avec sa forme substantielle. Et cette crise-là, le forum de Davos peut imaginer tous les plans possibles, elle est irrémédiable et elle est incoercible. Donc, la crise du dollar, l'effondrement de l'euro, la gigantesque crise de l'éléphantiasisme du crédit chimérique, elle ne peut pas être résolue. Parce que c'est la première fois, et alors ça, il faut que les gens bossent. Alors là, il y a des gens qui vont décrocher, vont dire « Oh là là, c'est compliqué, j'ai mal à la tête, ça y est, je surchauffe. » Mais ce qui est profond là, on ne peut pas l'expliquer autrement qu'en creusant la radicalité de ce qu'il y a dans le capital, au-delà du capital, dans la crise généralisée de l'équivalent général abstrait. Toutes les crises monétaires, toutes les crises financières en relation avec la baisse du taux de profit étaient des crises où l'équivalent général abstrait était en contradiction avec les formes phénoménales de son apparaître historique. Là, on a atteint le point où il est en contradiction avec la substance même de son auto-présupposition substantielle en tant que telle. Donc, on ne pourra pas résoudre cette crise en substituant un équivalent général phénoménal par un autre. On n'est plus au moment où on va remplacer la livre sterling par le dollar, où on va remplacer l'échange fixe par l'échange flottant. On est arrivé à un moment où on ne peut plus rien remplacer par rien. Et c'est ça qu'il faut bosser. Et donc, la réinitialisation, d'abord, elle n'a de sens que si on comprend que c'est bien la crise de la baisse du taux de profit, et si, deuxièmement, on comprend que ça ne pourra rien réinitialiser parce qu'on est rentré dans le temps de l'impossibilité objective de la reproduction de l'équivalent général abstrait en tant que tel. Alors, juste un truc simple pour essayer pour que les gens comprennent. Quand on dit la monnaie, c'est effectivement un équivalent général qui permet de dire que telle marchandise est comparable à telle autre puisqu'elle contient tel niveau de valeur et que grâce à cet équivalent, on va pouvoir les mettre en relation. La marchandise A va rencontrer la marchandise B et elles vont pouvoir circuler et s'échanger parce qu'il y a un équivalent qui permet de leur signifier une équivalence quantitative. La monnaie, c'est aussi effectivement un étalon monétaire dans un pays donné, dans un espace donné qui nous dit le niveau de taux de profit de ce pays, puisque c'est le niveau de taux de profit général qui va dire qu'une monnaie est haute, qu'une monnaie est basse, qu'une monnaie est moyenne. Mais tout ça, ce sont des formes phénoménales, ce sont des formes immédiatistes. Il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus important, c'est de comprendre que l'équivalent général abstrait qui fonde la monnaie, c'est pas simplement un moyen de faire circuler entre guillemets des marchandises, c'est une structuration aliénatoire préalable qui dit la marchandisation de la totalité de la vie. Et ce qui rentre en crise aujourd'hui, c'est pas les formes par lesquelles l'économie des marchandises circulait, c'est le fait même qu'il puisse y avoir une marchandisation de la vie. Et donc, cette crise du capital, cette crise de la baisse du taux de profit, cette crise de la saturation des marchés, elle est en même temps une crise ontologique de l'humanité, puisqu'elle est la crise ontologique de l'humanité asservie à l'équivalent général. C'est donc la première fois dans l'histoire de l'histoire que l'humanité est confrontée à une situation objective où l'équivalent général ne peut plus s'équivaloir à lui-même. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le coronavirus. Il ne faut pas se perdre dans mille circulations sur alors le problème médical, le ceci, le cela. Alors, on sait bien que le mythe du coronavirus est une imposture gigantesque et que le coronavirus n'est rien d'autre qu'une grippe spectaculairement mise en scène par le capital. Mais il faut comprendre ce truc décisif. Pourquoi le capital s'arrête? Pourquoi tout s'arrête? Pourquoi plus rien ne se met en mouvement de production? Le capital, c'est précisément la production infinie et permanente. Et il dit, il n'y a plus d'infini, il n'y a plus de permanence, je m'arrête. Et c'est cette crise de l'équivalent général. Et il n'y a que nous, à partir de Marx, en fonction des groupes radicaux communistes qui ont surgi dans l'histoire, qui peuvent comprendre le fantasme de la réinitialisation, le cul-de-sac de la réinitialisation, la problématique de l'ingénierie sociale de la domestication. Il faut dire à tous les gens qui nous écoutent que tous ces vocables, toutes ces conceptualisations sur la réinitialisation et sur l'ingénierie sociale, si elles ne sont pas reliées à la baisse du taux de profit, si elles ne sont pas reliées à la crise communiste de la marchandise, n'aboutissent à rien. On est dans une histoire pour enfants où il y a des gens qui veulent dominer d'autres hommes. Point. Alors, en plus articulé, on a une vision messianique d'un gouvernement mondial qui veut effectivement carapaçonner l'humanité, mais ce gouvernement mondial qui veut carapaçonner l'humanité, il est lié à une idéologie qui s'appelle le monothéisme de la marchandise totalitaire, mais qui est d'abord lié à une pratique qui s'appelle la valeur d'échange, qui a surgi au néolithique, qui n'a pas cessé de se répandre et qui a pris la destination d'une formalisation supérieure à partir de 1914. Donc, tout discours sur la domination, sur l'ingénierie sociale, sur la réinitialisation, qui ne passe pas par le capital et par la critique radicale des groupes communistes qui, à partir de la Première Internationale, ont théorisé la crise terminale du capital, ne sert à rien, et je dirais même, c'est même pire que ne sert à rien, puisque au moment où tous les fétiches vont mourir, elle crée un nouveau fétiche, le fameux fétiche néo-proudhoniste du « au moment où la politique est en train de mourir, au moment où l'économie est en train de mourir, et au moment où l'humanité peut s'émanciper, on leur dit bah « non, vous émancipez pas, on va vous reconstruire une économie et une politique nouvelle ».
Puis d'ailleurs, rien que dans le terme, c'est quand même un aveu incroyable, la réinitialisation. C'est-à-dire que faut se dire qu'on est la crise du capital, la crise de l'équivalent général abstrait, c'est une crise civilisationnelle. C'est-à-dire que ça vient de très très loin. C'est pas juste la crise un moment anticapitaliste. C'est la crise de toute l'humanité depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les modes de production marchands, que ce soit la Grèce, l'Empire romain, la société féodale, la naissance avec Amsterdam, etc. La marchandise a toujours grignoté des petits pas sur la valeur, enfin la valeur d'échange a grignoté sur la valeur d'usage, des petits pas, une force révolutionnaire qui sans arrêt grandit. Alors on a l'Empire romain, enfin, la République romaine qui grandit, le marché mondial, les colonies, puis après le capital universel. Toutes les contradictions des modes de production se sont toujours reproduites dans une étendue de la contradiction. Mais on arrive à c'est la première fois que la valeur d'échange, que l'équivalent général abstrait dit, ah bah ça serait bien si je retournais en arrière. C'est-à-dire que depuis le néolithique, c'est une force révolutionnaire qui ne fait qu'avancer, qui ne fait que reproduire, poser un imposé, puis un recomposé, toujours une dialectique qui va en avant, qui reproduit, qui génère des classes, qui rentre en lutte de classes, qui positionne des révolutions, et toujours ça avance. Et là, le capital dit, ah bah quand même, j'aimerais bien remettre le dentifrice dans le tube. C'est un aveu gigantesque qui dit bah, je ne peux plus aller vers l'avant, on va voir ce qui se passe. Mais nous, on n'a pas de boule de cristal, mais on le sait déjà, on n'a même pas besoin d'attendre le Davos en janvier. On sait déjà ce qu'ils vont se dire. Ils ne peuvent rien faire.
Rien à part terroriser tout le monde. Alors, parce que le capital actuellement, il a deux jambes quelque part. Il a le terrorisme sanitaire et le terrorisme islamique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faut prendre une mesure sanitaire, on la prend et puis juste après, là, il y a un attentat terroriste. Alors vite, on parle de l'attentat, surtout le truc d'avant, on l'oublie. Donc effectivement, il y a une immanence qui produit des nécessités de recomposition et de manipulation pour qu'il y ait un oubli, le fameux oubli de l'histoire dont parle Marx. Mais c'est pas ça qui produit l'histoire à proprement parler. C'est la nécessité, effectivement, dans le temps accéléré de la crise capitaliste, de faire oublier ce qui vient de se passer. Mais alors, est-ce qu'on pourrait aussi revenir sur à la fois le terrorisme sanitaire, mais surtout ce terrorisme islamique qui peut effectivement prendre des formes complètement délirantes compte tenu du délire qui est lié au fait qu'il n'y a pas d'issue possible à la crise monétaire, quoi.
Alors, si vous voulez, on est effectivement dans ce qui nous permet de saisir la totale improductivité du capital quand il entre dans cette crise terminale, qui signifie que c'est l'équivalent général abstrait lui-même qui est dans l'incapacité de pouvoir continuer à s'équivaloir à lui-même. Et là, on rentre, alors on en a longuement parlé dans la critique de la société de l'indistinction, on en a parlé dans le véridique rapport, le capital, à un moment donné, il est chaos dans la structuration de son rapport à lui-même. Puisque contrairement à toute légende du renoncement, du réformisme et de la capitulation, le capital ne peut pas s'autonomiser de ses contradictions constitutives. Il est donc obligé, au moment où ces contradictions constitutives, dont il voulait s'autonomiser, mais dont il ne peut pas s'autonomiser, d'avoir pour seule pratique de reproduction dans la dialectique des forces productives, le chaos de l'indistinction. C'est-à-dire que, puisque plus rien ne peut être distingué, sauf à produire une conscience révolutionnaire. On est arrivé dans le temps où, dès lors que je suis dans la distinction, dans la saisie, dans l'appréhension, ce qui est saisissable, c'est que je suis au bout de la dialectique des forces productives de l'équivalent général abstrait, c'est-à-dire que je suis rentré dans ce temps où le fétichisme de la marchandise ne peut plus être autre chose que la production de son auto-invalidation. Donc, c'est le chaos. Mais le chaos, il a une conscience radicale communiste qui est son pire ennemi, son seul ennemi, c'est la révolution sociale, c'est la guerre sociale. Donc, il faut faire écran à la guerre sociale par la guerre sanitaire, par la guerre des sexes, par la guerre des religions, par la guerre ethnique. C'est-à-dire que la guerre sociale, qui est la seule guerre qui peut produire l'émancipation de l'humanité et qui est la seule guerre qui peut invalider le capital, pour être retardée, le capital se fait spectacle de la diversion généralisée universelle. Donc, guerre des sexes, guerre des civilisations, guerre des races, guerre des ethnies, et donc terrorisme sanitaire et terrorisme islamique. Alors, Al-Qaïda, c'est la CIA du gouvernement du spectacle mondial. Daesh, c'est la CIA du gouvernement du spectacle mondial. Mais on a des terrorismes concentrés et on a des terrorismes dilués. Un attentat comme le Bataclan, c'est une opération qui est organisée d'une manière concentrée, avec une logistique intégrée, qui est structurée par tout un maillage de services. Mais une attaque au couteau, ce sont des attaques déconcentrées, fluidifiées par un mouvement supérieur de toute la dislocation du champ social. Ce qui est très, très intéressant, j'en parlais avec plusieurs correspondants, quand vous écoutez, par exemple, ce que dit Zemmour, et on en parlait avec les correspondants, tout ce que dit Zemmour est très intéressant, mais au moment où il deviendrait le plus intéressant, il se tait. La grande question, c'est celle que pose Marx, c'est celle que pose la crise du capital dans sa forme première et dans sa forme terminale. Toutes ces populations qui sont là, ce n'est pas des cigognes, ce n'est pas des cormorans, c'est des flux de population, c'est des organisations étatiques, c'est des organisations para-étatiques. Quant au sortir de la grève radicale de 68, toute une série de structures patronales et financières mondiales ont généralisé la grande déportation du Sud vers le Nord, en déportant justement du Sud vers le Nord toute une série de populations qui venaient de temporalités particulières, d'histoires particulières, de modes de religion, de soumission particuliers. Ces gens-là savaient très bien ce qu'ils faisaient. Le capital n'est pas intelligent, mais il a des techniques immédiatistes où, même s'il n'a pas d'intelligence historique, il sait comment, dans cette immédiateté, les contradictions fonctionnent. Ça a été pendant des années et des années une attaque systématique du Christ et de la catholicité. Aujourd'hui, Charlie, c'est une attaque qui est un peu plus systématique du Coran et de l'islam. Mais c'est jamais une attaque des cheminements vétérotestamentaires de la Torah première. Donc, à partir du moment où on a des masses entières de populations qui sont dans une temporalité archaïque, et qu'on produit de manière délibérée des agressions. Alors, nous sommes contre la Torah, nous sommes contre le Coran, nous sommes contre toutes les religions de soumission, puisque nous sommes dans le logos grec et l'insurrection du manifeste communiste pour toutes les jouissances et pour toutes les émancipations. Mais au moment où le spectacle étatique contrôle tout, il est évident que les caricatures, qui sont toujours des caricatures de Mahomet ou du Christ, mais jamais des caricatures du mosaïsme, elles produisent un mode de production particulier d'irritation sociale dans le cadre de la crise idéologique du temps contemporain. Donc, on organise des crispations, on organise des conflictualités. Et étant donné que la guerre sociale est la seule chose qui fasse peur au pouvoir du capital dans cette situation de crise généralisée, on comprend bien que dresser sur le terrain des terres européennes le cheminement géopolitique d'une guerre ethnique ou d'une guerre religieuse en activant dans le cadre d'une ingénierie sociale de la marchandise. Il y a une ingénierie sociale de la marchandise qui organise la guerre des civilisations, la guerre ethnique, pour qu'effectivement on ait une gigantesque pétaudière sur les terres d'Europe pour que la Commune de Paris ne ressurgisse pas. Donc, crise du capital, baisse du taux de profit, coronavirus, dressage social, crise sanitaire, masquage des visages, mais masquage de la conscience, dépossession des contenus historiques et dans le même temps, le gigantesque bordel social avec un terrorisme islamique qui est contrôlé, qui est organisé, qui est voulu parce qu'il vient parasiter au moment où la crise du capital est de plus en plus ingérable, les surgissements possibles du prolétariat, parce qu'il faut toujours se rappeler, et là on est au cœur de la guerre civile et on est au cœur des luttes de classe en France, que plus on arrive dans ces moments décisifs où l'infrastructure industrielle, l'infrastructure commerciale, l'infrastructure bancaire, l'infrastructure monétaire est en train de s'invalider, même la commission patronale la plus abrutie du MEDEF sait que le vrai danger, c'est le prolétariat qui n'a pas encore bougé, qui après le reflux des gilets jaunes semble très significativement endormi, mais il n'est pas vaincu, il n'est pas écrasé, il est là, c'est l'eau qui dort, et l'eau qui dort, c'est la panique. Donc, guerre sanitaire, guerre ethnique, guerre religieuse, chaos, le chaos de l'indistinction. Généraliser le chaos de l'indistinction pour que la conscience de classe communiste du distingué radical ne puisse pas survenir. Donc, le coronavirus, le terrorisme islamique contrôlé par les appareils d'État, l'OTAN, la CIA, les services spéciaux, tout se tient en une même unité qui s'appelle la baisse du taux de profit, qui s'appelle la guerre de classe que l'État capitaliste est en train de préparer contre le prolétariat, parce qu'on va vers des temps décisifs et la fameuse grève sauvage radicale de 68 qui avait disparu et qui faisait si peur et raison pour laquelle on a mis en marche le grand remplacement des populations, elle revient parce que la baisse du taux de profit est toujours ce qui est le plus fort dans l'organisation du rapport social de production, de la dialectique des forces productives qui produit la crise du taux de profit, la saturation des marchés. Donc, coronavirus, guerre ethnique, chaos indistinctif, c'est toujours la même chose sous un autre nom. Ça s'appelle la résistance du capital face à la menace du prolétariat.
Et d'ailleurs, pour le comprendre, ça, il n'y a qu'un mot, c'est la dialectique. C'est-à-dire que d'un côté, le capital veut faire venir des temporalités fermées pour justement faire en sorte de délayer un petit peu sa dégénérescence et la révolution qui arrive. Mais en même temps, il produit lui-même des ghettos, des séparations. Il tape sur l'objet qu'il fait lui-même venir. Alors on se dit, il les fait venir, et puis en même temps, après, il les repousse. L'équivalent général, c'est on est dans la domination réelle, on est dans le monde le plus religieux qui soit, puisque la marchandise est devenue objet fétiche. Et tout est fétiche, donc tout est religion. Aujourd'hui, l'équivalent abstrait, c'est le dieu du monde. Et du coup, on est à l'envers de tous ceux qui nous disent « Oui, alors le capital, l'anticlérical, il abolit la religion. » On est le monde le plus religieux. Mais dans cette prédominance de la marchandise comme nouvelle religion, la CIA fait revivre l'islam. On se dit, alors c'est la domination monothéiste de l'argent, ou bien c'est les vieux monothéismes du passé. On n'arrive pas. C'est pareil, il y a des tendances et des contre-tendances, tout est dialectique. Le capital fait venir, mais le capital repousse. C'est attraction, répulsion, et tout est comme ça. Parce que pour contraindre le prolétariat, quelque part, il faut deux bras. C'est-à-dire qu'on a le front antifasciste, on a le front antiraciste, et puis en même temps, on a les canonnaires de la guerre de civilisation qui font que bah, si jamais on n'arrive plus à maintenir une indistinction totale, bah, on la reproduira non plus sur le camp des ghettos américains où chacun est bien chez soi, personne ne parle, mais au contraire, mettre en place la guerre de civilisation, la guerre des races, pour faire en sorte que surtout le seul front qui est le front de la guerre révolutionnaire du prolétariat ne soit pas mis à jour. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en réalité, il faut penser dialectique, les deux, c'est la même chose. C'est une seule et même substance qui s'incarne d'un côté ou de l'autre pour réaliser un mouvement d'encerclement qui est pour désarmer le prolétariat.
On va voir comment ça se passe, mais bon, il est fort probable que l'état mondial de la marchandise ou des états particuliers ait la nécessité de produire d'autres attentats terroristes de grande envergure. Mais quelque part, il est beaucoup plus simple pour les services de laisser dans la nature des pauvres abrutis avec des couteaux et de les laisser faire leur conneries de façon immanente. Donc, en fait, il y a eu un nouveau stade qui a été passé dans la dynamique terroriste de la marchandise. Au début, c'est on contrôle, effectivement, de toute façon, tout est contrôlé, mais il y a aussi laisser faire, quelque part, parce que le chaos social est tellement généralisé, il y a une telle inculture, un tel abrutissement de ces mecs-là, que quelque part, il suffit de les laisser dans la nature et qu'ils se débrouillent tout seuls, quoi. Donc, c'est assez prodigieux.
Alors, ils se débrouillent tout seuls dans la nature, mais dans le cadre de ce que Marx nous a appris dans le sixième chapitre du Capital, c'est-à-dire dans ce déroulement totalitaire de la cybernétique, ils ne sont pas si tout seuls que ça.
Ouais.
C'est-à-dire que tout est contrôlé, même l'isolé tout seul. Il ne faut pas croire qu'à l'échelle du contrôle cybernétique, il y ait des tout seuls. Mais même les tout seuls sont accompagnés.
Mais du moins, c'est ce qu'ils voudraient nous faire croire, au moins, quoi, disons. Parce que quelque part, après un attentat de grande envergure, ça devient presque dangereux compte tenu de l'Internet, etc. Et les gens commencent à se poser des questions, disons.
Et on est en plus à un stade supérieur, parce qu'il faut se dire que 2001, c'est un avion, c'est des tours, c'est tactile, on peut les toucher. Le Bataclan, bon, ça se passe dans une salle, on dit au GIGN, il ne faut pas intervenir, etc. Mais c'est un peu plus en huis clos, c'est-à-dire qu'on passe dans une méthode d'occultation un peu plus supérieure. C'est-à-dire que les tours, on les a vues. Il y avait des milliers de témoins, et puis là, ça se passe dans des petits cénacles. Mais on arrive avec la crise de l'équivalent général abstrait, on arrive au coronavirus. C'est-à-dire qu'on arrive à être terrorisé par quelque chose qui n'existe pas, qui est purement fictif. C'est-à-dire que on crée de toutes pièces, parce qu'à la limite, on ne peut pas brûler, comme on l'a dit plusieurs fois, on peut pas brûler une cathédrale tous les jours. La cathédrale, elle est tactile, elle existe. Elle est encore une matérialité concrète. Dans la production de l'abstraction totale du capital, il génère lui-même des terroristes abstraits qui est le virus très mortel, attention, vous allez tous mourir, etc. Détruisons la planète du capital en espérant que ça va passer.
Donc, on reprend la fameuse lettre de Marx à Engels et à Kugelmann où il dit J'ai produit la synthèse dialectique du capital, parce que le capital, c'est une synthèse dialectique. C'est pas un texte qui additionne des tendances et des contre-tendances. C'est un texte dialectique qui, au terme, décrète en expérimentation concrète la vérité inéluctable du capital. Et dans ses lettres où il reprend la science de la logique, il positionne les catégories dialectiques. Et quand Charles dit le virus factif, le virus chimérique, le virus totalement expression de la fictivité absolue, il y a un lien dialectique avec la crise du capital le plus chimérique et le plus factice. C'est-à-dire qu'on est entré, et c'est ça le chaos indistinctif, dans la forme supérieure du fétichisme de la marchandise, où le fameux hiéroglyphe, c'est la chimère de toutes les chimères. C'est-à-dire que tout est structuré, et alors là, on retrouve ce que dit Marx dans la question juive en prélude au Capital, quand il parle du judaïsme comme d'une nationalité chimérique. Ça va lui permettre d'accéder ensuite au Capital dans toute la réalité sociale aliénatoire du chimérique. On est dans le chimérique absolu, partout généralisé, et ça n'est compréhensible que d'un point de vue dialectique, et donc du point de vue de la lutte de classe. parce qu'on en revient à ce qui fait la qualité intrinsèque de cette émission. De quel lieu parlons-nous? Où allons-nous? Par quel territoire notre pensée passe? Par quel territoire notre incarnation se positionne? Qu'est-ce qui fait la différence entre notre lecture du Capital, notre positionnement dans l'histoire, notre rapport à la Première Internationale et toute une série de gens qui peuvent en parler pour ne pas aboutir à la claire compréhension radicale de ce qu'est la crise terminale du Capital? C'est le fait que nous sommes au cœur d'un concept clé de la dialectique historique qui s'appelle la lutte des classes. Tout part de la lutte de classe, tout revient à la lutte de classe, et toute question qui n'est pas posée sur le terrain de la lutte de classe n'a pas de sens. Le Capital, si ce n'est pas posé sur le terrain de la lutte de classe, c'est un texte qui va nulle part. Le concept d'ingénierie sociale, si je ne le rapporte pas à la lutte de classe, c'est une alchimie industrielle qui est complètement débile. Si je pose la question de la réinitialisation, j'en fais un truc de rendement industriel, d'asservissement politique neutre. Ah non, si je relis ça à la lutte de classe, tout s'explique. Donc, tout s'explique par la lutte de classe, tout revient à la lutte de classe. Et si je ne suis pas sur ce socle méthodologique-là, j'ai des pans entiers du réel qui m'échappent. Et je ne comprends rien. Je ne vois pas d'où ça vient, je ne vois pas où ça va. Et donc, à partir de là, je n'ai aucune capacité historique subversive à pouvoir produire la compréhension de ce qui va survenir.
Et alors, on parlait du chaos, on parlait de la lutte de classe. Que se passe-t-il actuellement en termes de chaos et de lutte de classe aux États-Unis d'Amérique?
Là, on a de quoi faire. Hein. Là, on a
le gros morceau du soir.
On en avait, mais pas le gros morceau, mais on en avait parlé longuement. Alors, je renvoie les auditeurs à ce qu'on a pu dire dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers. Alors d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, parce que l'extrême radicalité des temps derniers, ça nous renvoie à ce fameux texte de Engels qui s'appelle « Les origines du christianisme primitif », pourquoi la conscience communiste se structure sur un temps grec, pourquoi elle est aux antipodes du monothéisme de la marchandise judéo-islamique, ni Torah, ni Coran. Pourquoi les évangiles sont une subversion radicale qui conduit au manifeste communiste? Mais pourquoi ce texte de Engels, Les origines du christianisme primitif, se termine sur l'évangile de Jean, la fameuse apocalypse? Donc, la fameuse apocalypse, nous sommes dans l'apocalypse et donc dans la révélation terminale. Nous sommes dans la révolution, dans la révélation terminale. Alors, les États-Unis, c'est fantastique parce que bon, on a vu des élections. Alors, c'est un système mafieux par essence. Marx, New York Daily Tribune, quand il nous explique toute l'histoire politique, institutionnelle, électorale des États-Unis, bon, il insiste bien là-dessus. Donc, il y a toujours eu du truandage électoral. Et il y a toujours eu, puisqu'on reprend l'expression de tout à l'heure employée par Charles, il y a toujours eu des bulletins de vote chimériques. À l'époque où Kennedy a été élu, il y avait de gigantesques magouilles. À l'époque où Nixon a été élu, il y avait de gigantesques magouilles. Mais on jouait sur des milliers de bulletins dans un État. Là, on est rentré dans une dynamique où, visiblement, on a des millions de faux bulletins. On a des millions de faux bulletins. On est donc rentré dans une crispation. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises, mais il y a la lutte de classe entre le prolétariat et le capital, mais il y a effectivement des luttes de classe au sein de la classe capitaliste. Il y a une lutte de classe, nous montre Marx, dans le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est une lutte de classe de longue durée entre les bourgeoisies financières, les aristocraties commerciales, les classes paysannes aisées, les petites classes paysannes, les grandes bourgeoisies, les moyennes bourgeoisies. Donc, il y a plein de luttes de classe au sein même des classes dominantes. Et donc, on a aux États-Unis une lutte de classe intensive entre la classe capitaliste industrielle nationale et la classe capitaliste financière cosmopolite. Et il faut se rappeler que depuis la victoire de 1945, la Maison-Blanche, c'est le siège du gouvernement américain. Mais le gouvernement américain, dans les infrastructures de la réalité du capital et de sa crise, il a des structurations différentes. Il y a un état visible, il y a un état invisible qui représente le fétichisme de la marchandise des profondeurs, puis il y a un état profond qui est une articulation intermédiaire entre les deux. Donc, à la Maison-Blanche, pendant des années et des années, on avait le président américain, qui était à la fois le président de l'Amérique, mais qui était à la fois un des porte-voix du gouvernement du spectacle mondial. Et quand Clinton a été battu par Trump, cette dissociation, cette contradiction s'est étirée. Et effectivement, Trump était bien le président des États-Unis, mais il n'était pas le représentant de l'état profond qui renvoie à l'état invisible et au gouvernement du spectacle mondial. Et d'ailleurs, on l'a vu, puisque toutes les structures de l'OTAN, à travers leurs ramifications européennes, étaient anti-Trump. Elles étaient pro-américaines, OTAN, CIA, Pentagone, gouvernement du spectacle mondial, mais anti-Trump. Donc, il y a une réalité contradictoire de lutte de classe. Alors, nous, ce n'est pas notre problème. On se bat pour la révolution communiste qui va abolir l'État et qui va abolir l'argent. Donc, Trump, Biden, Clinton, ce n'est pas notre problème. Sauf qu'on se pose des analyses d'intelligence parce qu'on essaye de comprendre la géopolitique du capital. Donc, on ne choisit pas un camp contre un autre. Mais on comprend la réalité de cette dialectique des forces productives. Et donc, depuis quatre ans, il y a une guerre à mort entre l'État profond et Trump, parce que c'est un conflit de classe entre le gouvernement du spectacle mondial et les sphères mondialistes de la finance internationale et le capitalisme américain, industriel, national. On a pu voir cette guerre à travers les médias, qui ne sont pas un cinquième pouvoir. Les médias, au niveau mondial, c'est la métastase du pouvoir de la marchandise mondiale. C'est-à-dire que au moment où Trump a été élu, les médias sont rentrés en guerre contre lui. Et en guerre contre lui, non seulement aux États-Unis, mais dans la totalité du monde. Il suffit de voir comment les journaux télévisés en France narrent les élections, on se poile, on n'a jamais vu un truc aussi délirant. Mais donc ces élections ont vu dans ce conflit qui découle de la baisse du taux de profit. Parce que tout à l'heure, on a posé la question de la guerre sociale à partir de la baisse du taux de profit et à partir de la saturation des marchés. Il est bien évident que si la guerre entre l'État profond américain qui renvoie à l'État invisible contre Trump et l'État visible a pris cette forme intensive, accélérée sur la période 2016-2020 et non pas il y a 20 ans, c'est précisément parce que la baisse du taux de profit, la crise, la contradiction valorisation-dévalorisation sur la géopolitique du commerce mondial a intensifié les contradictions. Ce n'est pas par hasard que ça a lieu maintenant. Et donc, il y a une guerre qui a été déclenchée à un point tel qu'on a abouti à un coup d'État électoral. Pour la première fois dans l'histoire, on a vu une conférence de presse d'un président américain qui était coupée par trois des plus grandes chaînes. On sait aujourd'hui, à travers toute une série de rapports qui ont été faits sur la Pennsylvanie, sur la Géorgie, sur la Floride, sur les États de l'Est, sur plein d'autres régions, qu'il y a eu effectivement une production industrielle intensive de votes par correspondance qui sont, on ne peut plus, douteux. En termes de logique institutionnelle, bon, nous, on est contre l'État, on n'en a rien à foutre de la logique institutionnelle, mais la logique institutionnelle, elle a sa chronologie, elle a son mouvement. À partir du moment où il y a un tel contentieux sur des millions de bulletins, la décision finale, elle découlera des contentieux juridiques dans chaque État, puis au terme des contentieux juridiques dans chaque État, à la remontée vers la Cour suprême. On a vu dans un mouvement de panique toutes les chaînes de télé nous dire « ça y est, c'est fait ». C'est-à-dire qu'on n'attend même pas, les décisions ultimes qui, dans la structuration institutionnelle, vont valider. Les médias lui ont coupé le sifflet et les médias nous disent « c'est Biden ». Donc, on assiste vraiment à un coup d'État électoral. Mais ce coup d'État électoral, il faut le comprendre dans le cadre de cette lutte à mort entre… au regard de la baisse du taux de profit et au regard de la crise du capital mondial, entre les structures financières du gouvernement du spectacle mondial et de l'État profond, et l'État visible tel que Trump le positionne, qui défend une vision industrielle capitaliste nationale qui est complètement aux antinomies du camp du camp démocrate. Alors le truc qui est vachement marrant, c'est qu'alors vous avez tous les gauchos antifa, enfin tous les clowns mercenaires du capital qui soutiennent Biden, qui est soutenu par Colin Powell, qui est soutenu par le fils Bush, qui ont donc été les responsables de toutes les plus grandes ratonnades de l'histoire du dernier siècle, c'est-à-dire l'extermination des Irakiens, l'extermination des Libyens, l'extermination des Syriens. C'est-à-dire que finalement, c'est le premier mandat où le capital national qui se restructure a été le moins militaire. À l'époque de Clinton, on bombardait les Irakiens tous les jours. Clinton a massacré les Serbes. Donc, si vous voulez, il y a tout un prisme qui est complètement idéologique et fou. Alors, vous regardez TF1, vous regardez Antenne 2, vous regardez BFM TV, c'est-à-dire que c'est, tous les soirs, c'est une messe anti-Trump. Alors, on a eu la messe anti-Trump pendant 4 ans, on l'a eu au moment des élections, et on l'a encore en ce moment, c'est-à-dire que c'est les médias. Alors, qui nous dit que les bulletins, il n'y a pas eu de fraude? C'est les médias. Donc, les médias, en tant que métastase du chaos indistinctif du spectacle de la marchandise totalitaire, c'est le champ orwellien réalisé. Finalement, les médias, c'est quelque chose de plus certain que la Cour suprême. Non, mais c'est très intéressant parce que là encore, il faut être du point de vue de la lutte de classe. On ne peut pas comprendre ce délire sur Trump et ce coup d'État électoral, parce que c'est un coup d'État électoral. C'est-à-dire qu'on nous dit le vainqueur, c'est lui, alors que toutes les vérifications institutionnelles n'ont pas eu lieu. Donc c'est prodigieux comme lapsus. Le spectacle de la marchandise, comme tout à l'heure on disait avec Charles, le spectacle de la marchandise avec le forum de Davos nous dit qu'il va réinitialiser ce qui n'est pas réinitialisable dans un truc délirant. Et là, dans un truc délirant, le spectacle de la marchandise nous dit voilà, c'est comme ça. C'est fantastique.
Et on est en droit de se poser aussi la question, pourquoi c'était aussi important que Biden gagne? C'est-à-dire que là, il y a eu quand même convergence mondiale pour une élection qui, on aurait pu se dire, bah tiens, bon, c'est juste le gérant de la boutique. C'est aujourd'hui, le capital est un monstre impersonnel. Pourquoi c'est aussi important qu'un politique qui, de toute façon, n'a aucune marge de manœuvre, finisse ou pas à la Maison-Blanche? Il faut se dire que il y a un état profond, mais l'état profond, il rend les décisions qui seront appliquées nécessairement par l'état visible. C'est-à-dire que, bon, évidemment, Trump dans la Maison-Blanche, si les dossiers n'arrivent même pas à son bureau parce que les mecs de la CIA ou du FBI viennent lui piquer ses dossiers sur son bureau, c'est-à-dire physiquement, il ne peut pas travailler. Si on arrive dans cette situation-là où l'état visible est esclave de l'état profond, c'est uniquement, c'est pas parce qu'ils sont méchants, parce que Trump aurait des dossiers, il arriverait à enfermer les Clinton, il veut faire une guerre contre l'État pédosataniste profond, etc. C'est pas pour ça que l'élection était aussi importante, c'est parce que l'État profond lui-même est esclave de l'État invisible. Donc là, on renvoie à une dialectique État visible, État profond, État invisible. L'État invisible, c'est rien d'autre que la force de nécessité du capital. C'est-à-dire que dans le cadre de la crise généralisée aujourd'hui, il est essentiel d'avoir une convergence contre-révolutionnaire mondiale où on peut déployer toutes les forces contre-révolutionnaires et qu'on n'a pas quelque part quelqu'un qui vient gêner l'appareil social avec des contre-tendances où quelque part on voudrait dire bon, on a le capital totalement fictif, mais on partirait aussi sur une rénovation industrielle impossible, mais avec des tentatives qui retardent un petit peu l'agenda parce qu'il faut se dire que ces gens-là, ils s'imaginent qu'avec Davos, ils vont pouvoir rénover le capital. Donc pour eux, c'est extrêmement important que tout l'appareil visible ou profond soit en état de marche, ce qui n'a aucun intérêt en réalité. Mais c'est toutes les mécaniques de l'état profond, et l'état profond lui-même est esclave de l'état invisible. Donc pourquoi l'élection de Trump était aussi importante? En réalité, elle ne l'est pas tant que ça, puisque de toute façon, c'est la crise du capital et l'équivalent général abstrait qui était au pouvoir, et c'est la crise du capital et l'équivalent abstrait qui est toujours au pouvoir. Ça ne change rien. Et pourquoi à ce moment-là c'était aussi fictif? C'est dans le sens où justement, il y a une guerre qui est forcément les tendances du capital sur capital industriel, capital financier. Le capital financier doit absorber le capital industriel, mais si Trump était réélu, de toute façon, il n'aurait aucune marge de manœuvre réelle. Donc, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui est révélateur, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'analyser. Mais au final, que ce soit dans un cas ou dans un autre, que Trump aille jusqu'à la Cour suprême, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, ça ne changera pas l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire utilise les hommes dans la mesure où les hommes font avancer l'histoire. Mais les hommes, dans leur autonomie personnelle, de passion personnelle, ne peuvent pas changer le cours d'un mode de production donné. C'est-à-dire que le capital est voué à produire la révolution communiste, ça ne peut pas autrement, et on ne peut pas arrêter l'horloge ou se dire, bah, tiens, il y aurait un autre projet, une troisième voie. Il y aurait un autre capital, un peu moins fictif, un peu mieux contrôlé, etc. Ce n'est pas possible. Ça s'est vu à toutes les époques. Quand Napoléon incarnait la capacité d'un empire français à aller au-delà de ses frontières, à reproduire, à quelque part essayer de concurrencer l'empire anglais, on avait la capacité d'un mode de production à travers la guerre comme sphère d'accumulation primitive privilégiée qui faisait que Napoléon a pu arriver jusqu'en Russie. Mais quand Napoléon... Donc l'histoire, c'est quelque part à user la passion personnelle de Napoléon pour avancer dans l'histoire des modes de production. Mais quand Napoléon a cessé de représenter cette raison historique, 1814, 1815, bon, c'est plié. Donc il faut se dire que de toute façon, en dernière instance, c'est toujours la dialectique des forces productives qui domine. Quand bien même il y a un camp du capital ou un autre qui a des passions personnelles ou des envies particulières, ça ne change rien au final.
Et quoi qu'il arrive, toutes ces dynamiques-là sont tout le temps... elles trouvent leur manifestation dans un chiffrage généralisé. C'est-à-dire qu'à l'époque de la grande chimère du climat et du CO2, on avait tout un chiffrage sur le CO2. Là, avec l'élection de Donald Trump, on a tout un chiffrage sur le comptage des voix. Et là, on apprend récemment aussi que les serveurs qui sont chargés de collecter les informations sur les malades du Covid seraient saturés et que donc ils auraient oublié des chiffres malgré l'explosion des chiffres. C'est-à-dire que le chiffrage généralisé de la société est le dernier mode de justification d'une société qui de toute façon, depuis les calculi originaux à aujourd'hui, ne peut que nous produire la merde informatique terminale, quoi. Donc c'est prodigieux et c'est le dernier mode de justification scientifique de l'aliénation. Et là, on arrive au bout et quand ce fétiche-là va tomber et que les gens vont voir qu'effectivement, les chiffres, c'est le chiffrage en tant que c'est le voilement, alors là, ça va être terrible, quoi.
Non, mais c'est pour ça, si vous voulez, que je renvoyais à ce concept de temps dernier et à ce concept d'apocalypse en tant que temps dialectique de la révolution finale, c'est-à-dire que aujourd'hui et là, on est dans un cheminement dialectique. Non seulement le capital est en train de dévoiler sa vérité définitive, mais en tant que le capital a triomphé de tous les modes de production aliénatoires qui lui ont préexisté et qu'il les a quelque part digérés pour les faire parvenir dans cette digestion à une utilisation supérieure de lui-même en lui-même, on est non seulement au bout de la vérité définitive du capital, mais on est au bout de la vérité définitive de toutes les domestications. C'est-à-dire qu'on est dans le temps ultime où le concept d'automouvement dialectique, en tant que renversement d'émancipation contre toutes les dialectiques de la soumission, est en train de devenir expérimentalement pertinent. On est entré dans une phase historique comme il n'y en a jamais eu. Alors, on l'a dit tout à l'heure pour le coronavirus, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une telle folie de mise en friche et d'arrêt de la production, mais en même temps, on n'a jamais vu une telle confrontation des solitudes humaines à elles-mêmes. On n'a jamais vu une telle obligation pour l'être humain écrasé par ce gigantesque mouvement mondial de se retrouver dans la folie de son solipsisme, et donc quelque part, de devoir impérativement renverser ça, parce qu'on n'a jamais atteint, une angustia ou nubris, une folie, quelque chose d'aussi écrasant. C'est la première fois que dans l'humanité, la production s'arrête, mais c'est la première fois dans l'humanité que l'humain est autant écrasé par l'inhumain. Donc il y a une synthèse dialectique qui est en train de s'opérer entre les incapacités du pouvoir de la domestication et l'absolue difficulté pour l'humain de respirer l'humain. Donc, tout se combine dans quelque chose qui mène progressivement à l'obligation du sursaut, à l'obligation d'un acte d'intelligence critique. C'est-à-dire que le capital veut tout paralyser, il veut tout arrêter, il veut que plus rien ne bouge. Mais c'est précisément parce que plus rien ne bouge et que plus rien est mis dans la situation de ne plus pouvoir sortir du bouger que tout va bouger. C'est ça la synthèse dialectique. C'est l'auto-négation. Le concept le plus décisif de la dialectique, c'est l'auto-négation. Et Hegel disait souvent, c'est quand on est à l'apogée qu'on arrive au périgée. Mais ce n'est pas simplement une formule. C'est-à-dire que dans toute cette folie de la crise du capital, dans toute cette folie de l'enfermement des hommes dans l'inhumanité, il y a quelque chose qui atteint un tel point extrême que l'auto-invalidation devient une nécessité inéluctable.
Et ça rejoint la phrase qu'on mettra, je ne sais plus si c'est en introduction ou en conclusion, sur Marx qui dit « De nos jours, chaque chose paraît grosse de son contraire. Cette industrie gigantesque, ce qui la rend si grosse, c'est son impuissance à valoriser la marchandise. L'imposture du coronavirus, elle est si gigantesque parce qu'en réalité, c'est toute l'impuissance du capital à cloisonner la lutte de classe. C'est-à-dire que tout est dialectique au sens où tout ce qui est le plus spectaculaire révèle en fait la faiblesse absolue d'un mode de production qui est en train de mourir. Et c'est ça qui est génial et c'est ça qui doit nous pousser à jouir de cette situation parce qu'on est véritablement en train de vivre une époque qu'on n'a jamais vue et on a une très grande chance de vivre cette époque-là en réalité.
Et c'est là, si vous voulez, où le capital n'est pas un texte, c'est une incarnation de vibrations. Quand on lisait Le Capital dans les années 1920, 1930, 1950, je redis souvent, comme beaucoup de groupes radicaux l'ont toujours dit, Le Capital, ça n'est pas le texte du 19e siècle. C'est un texte qui a été écrit au 19e siècle, mais ce n'est pas un texte du 19e siècle au sens où il nous narre une histoire du 21e siècle. Mais tous ces groupes radicaux, alors je ne parle pas des cénacles universitaires, ça n'a aucun intérêt, mais tous ces groupes radicaux qui ont creusé le capital dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, ils travaillaient une mise en perspective. Ils travaillaient une réalité qui était là, mais il y avait des parts entières de cette volupté dialectique, de cette puissance d'histoire qui était en train de s'incarner, mais qui ne s'était pas incarnée et qui n'avait pas donné au contenu de sa substance toute la substance de son contenu. Le capital, à partir du moment où on est entré dans les taux d'intérêt négatifs, à partir du moment où on est entré dans ce moment où toute l'entité crédit chimérique s'invalide et au moment où, à partir de là, se crée le coronavirus, quelque part, le capital n'est plus simplement une matière vivante qui fait prévision, qui signale une destination, le capital est devenu désormais, par cette accélération du temps de l'histoire, la matière vivante de la totalité de ce qui vit matériellement dans l'histoire mondiale de la géopolitique universelle. Ce n'est plus un texte qui nous indique ce qui va arriver, c'est quelque part l'auto-édiction théorique de la pratique universelle telle qu'elle est. Il n'y a plus de décalage temporel entre le texte et le devenir, le texte et le devenir advenu. Donc, pour la première fois dans l'histoire, quand nous lisons le Capital, nous lisons le mouvement réel, réellement existant dans la totalité de son advenir devenu. Et là, c'est quelque chose de prodigieux, parce qu'on a, à partir de là, toute la compréhension de ce que nous avons dit tout à l'heure. On comprend la totalité du coronavirus. On comprend la totalité de ce qu'il y a derrière le forum de Davos et la réinitialisation. On comprend ce qu'il y a derrière le coup d'État électoral contre Trump. On comprend les attentats terroristes. On comprend la totalité de la déstructuration industrielle et commerciale qui va avoir lieu. On comprend la peur panique. On comprend la peur panique de tous les gouvernements qui sont les représentants du gouvernement du spectacle mondial par rapport à la guerre de classe qui va surgir. C'est-à-dire que nous sommes en temps réel dans le moment où le texte est la vie. Nous sommes dans la totalité de cette vie qui se dit comme totalité de la vie signifiée. Et ça, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, méthodologiquement, existentiellement, érotiquement, du point de vue de ce qu'est la conscience communiste vraie, c'est quelque chose de prodigieux.
D'ailleurs, petit détail, mais qui est quand même assez amusant, pour qu'on puisse se rendre compte à quel point il y a une auto-négation et que le capital est absolument en panique. Alors, je crois que c'était la nuit dernière, mais du coup, comme il y a un décalage horaire, je ne sais plus trop à quelle heure ça a été, c'était diffusé en France, mais il y a eu une célébration de la victoire de Biden. Et puis, il y a eu un petit dispositif de confetti sur la scène qui a lâché des confettis. Du coup, ça a fait un tout petit pop. Et au moment où c'est arrivé, tout le monde s'était commencé à courir dans les sens. C'est-à-dire, au moment précis où il y a les confettis qui tombent, ils s'imaginent, oh, c'est terrible, tout le monde va se cacher. Et à la seconde près, toutes les chaînes qui couvraient l'événement ont, à la seconde près, switché sur le match de football. Donc, personne n'a compris ce qui s'est passé. Et Biden a crié, bon, ils ont cru que c'était une attaque, qu'ils se faisaient tirer dessus, etc. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont fait une triche, mais tellement massive, qui s'attendent de se dire, bon, bah, comment est-ce qu'on va réussir à socialiser un tel coup d'État? Parce que ça, maintenant, on encaisse les billes. C'est-à-dire que s'il ne s'agit pas de juste faire un coup d'État, c'est-à-dire de gouverner derrière. Et on revient sur ce que disait Marx en 1848. Ils ont gagné. Il parlait de la réaction en 48, hein, mais c'est universel. Ils ont gagné, mais à quel prix? Parce qu'ils vont encaisser leur propre tête.
Là encore, bon, alors, que ce soit Trump ou Biden, du point de vue de la lutte de classe, on s'en fout, puisque nous, ce qu'on veut, c'est l'abolition révolutionnaire de l'État. Mais du point de vue de la chronologie interétatique, rien n'est joué.
Bien sûr.
Parce que quand nous parlons de État visible, État invisible, État profond, il y a une dichotomie qui traverse la totalité des appareillages et des appendices. C'est-à-dire qu'il y a 2 CIA, il y a 2 NSA, il y en a une partie qui est dans l'État profond et il y en a une partie qui travaillait pour Trump et les Républicains. Donc, on ne peut pas imaginer que dans un cadre de prospective méthodologique, alors que le clan Trump disait depuis des mois et des mois qu'il y aurait effectivement une utilisation massive et frauduleuse du vote par correspondance, qu'il n'y ait pas des agencements de contrôle. On ne voit pas Trump arriver à la Cour suprême ou même dans les cours d'État disant bah oui, il y a eu de la magouille sans avoir effectivement des munitions. Donc, entre le délire médiatique qui, de toute manière, avait choisi Biden dès le premier jour de l'élection de Trump il y a 4 ans et maintenant, et parce que bon, la procédure institutionnelle, elle va se jouer sur plusieurs étapes, il y a mi-décembre et mi-janvier. Mais entre demain matin et mi-décembre, les procédures contentieuses devant les cours d'État et devant la Cour suprême, ça va peut-être totalement renverser la dynamique. Parce que ce conflit entre l'État profond et l'État visible, il est gigantesque. Donc, pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ça va dépendre justement de cette joute institutionnelle entre les deux camps. Et finalement, bon, bah, est-ce que oui ou non, le clan capitaliste industriel national a les moyens de montrer que le gouvernement profond du spectacle mondial a massivement fraudé. Tout va se jouer là, et ça va se jouer dans le mois qui vient. C'est-à-dire qu'à mi-décembre, le coup d'État des médias qui ont proclamé avant même les vérifications institutionnelles va s'effondrer, ou est-ce qu'il va se consolider? Ça va se jouer dans les 3 semaines qui viennent.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé par la crise du capital. Le fait que l'un prenne le pas sur l'autre, c'est pas juste des décisions de justice subjectives, ça va dépendre de la reproductibilité du capital. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les protestants sont rentrés en lutte contre les catholiques. Et les catholiques ont pris le pas sur les protestants. Mais à un moment donné, ça se renverse et on se dit, bon, bah, il y a révocation, etc. On retourne dans des cycles d'accumulation capitaliste. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un camp de la valeur d'échange remporte une victoire sur un autre camp de la valeur d'échange? C'est parce qu'il correspond à une capacité de rénovation possible du mode de production. C'est pas juste des grandes décisions qui se passent dans des petits cénacles subjectifs où, quelque part, la Cour suprême et ses 7 membres vont réussir à faire l'histoire et à basculer dans une direction ou dans une autre. La direction, elle est déterministe et correspond aux contradictions du mode de production.
Et alors, en plus, juste un petit détail, après, il y a la physionomie générale des électorats qui n'est pas non plus inintéressante. C'est-à-dire que malgré cette propagande intensive, systématique du gouvernement du spectacle mondial, de l'État profond et de la totalité des médias, parce que c'est la totalité des médias, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on retrouve aux États-Unis ce qu'on a retrouvé en France au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a en France, du point de vue, alors le prolétariat européen est en avance, le prolétariat français est en avance, c'est-à-dire qu'il y a une masse de prolétaires qui ne vont plus voter, mais on a quand même une configuration aux États-Unis qui ressemble à celle de la configuration française, même si, compte tenu de l'histoire américaine et des aliénations électorales, dans l'intensité du jeu politique contemporain, le prolétariat a massivement soutenu Trump. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on pourrait appeler les gilets jaunes, si ça existait aux États-Unis, c'est-à-dire toute cette frange des États centraux, ouvriers, industriels, etc., a massivement voté Trump, et on retrouve les mêmes clientèles que dans les métropoles les métropoles mondialistes européennes et françaises. C'est-à-dire qu'il a la clientèle bobo, il a tous les rituels de la modernité capitaliste qui sont derrière Biden. Mais par contre, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que Trump, malgré la gigantesque campagne des différents cénacles gauchistes qui ont suivi l'affaire Floyd, est le premier candidat républicain à faire une si grande percée dans la population hispanique, les latinos, etc. Et surtout, c'est la première fois qu'un candidat républicain a un tel niveau de suffrage dans la population noire, puisque je crois qu'il est à 17, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si tout ça a lieu dans le marécage politique de la recomposition électoraliste du capital, ça signifie qu'il y a plein de résistances qui sont encore intériorisées par le jeu de l'aliénation politique, mais que ça veut dire qu'il y a une maturation qui fait que plein de choses sont en train de se réécrire et que même aux États-Unis, compte tenu du fait que le lieu central de la révolution mondiale sera l'Europe, même si c'est l'Europe qui sera le lieu central de la révolution mondiale, à travers le jeu électoral et les enfermements électoralistes du prolétariat américain, on voit déjà que massivement, le prolétariat américain a complètement rejeté les élites mondialistes de l'avant-garde du capital.
Alors le vote reste un peu raciste quand même, parce que dans la population noire dont vous parliez, même entre ceux qui ont peu de niveau d'études et ceux qui ont beaucoup d'études, à partir du moment où la population est de couleur, elle vote massivement encore pour Biden. Mais effectivement, Trump a réussi une avancée significative dans ces populations-là, malgré tout, quoi.
Ça veut dire que malgré tout ça, si vous voulez, tout bouge, la crise du capital, la crise du capital fait bouger toutes les enclosures. Alors, on est très loin aux États-Unis d'être sur un terrain de lutte de classe radicale qui nous mène à la grève sauvage, mais dans la configuration spéciale des aliénations américaines, tout est déjà en train de se fendiller. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on dit que le fétichisme de la marchandise est en train de totalement s'invalider, alors il ne s'invalide pas à la même vitesse, il s'invalide avec des histoires spécifiques, dans des configurations caractéristiques, mais le passage de Trump à la Maison-Blanche a totalement reconfiguré les cheminements électoraux classiques. Et pour qu'on en arrive à une lutte de classe qui deviendra anti-électoraliste, c'est vrai qu'il est important que dans des premiers temps de la maturation, il y ait des recompositions internes qui fassent déjà tout péter dans cet enclos électoral.
Mais d'ailleurs, c'est pas du tout anodin, et quelque part on peut voir beaucoup de choses qui vont nous concerner ici. dans le développement qu'ils ont aux États-Unis. C'est-à-dire que si Marx était là, il dirait peut-être de te fabula narratur, c'est-à-dire regarde, parce que c'est ton histoire dont on parle. C'est-à-dire qu'on, c'est pas encore le prolétariat aux États-Unis, mais dans la crise de ce mensonge par rapport à l'antiracisme, etc., on voit des mouvements de capacité opérationnelle de contre-révolution qu'on va expérimenter après dans les mois qui viennent en France. Donc, c'est beaucoup plus global que ça. Mais faut se dire que ces avancées, même si c'est peut-être 5%, 10%, et qu'il y a encore 80% de gens, que ce soit les Noirs, les Latinos, etc., qui votent démocrate, c'est pas du tout anodin dans le sens où on est derrière tous les mouvements Black Lives Matter, etc. Donc, tout ce grand tapage de socialisation antiraciste a abouti à rien. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu des clientèles, etc., mais par rapport à la vague bleue qu'ils voulaient, c'est ridicule. Et il faut se dire que c'est pas anodin dans le sens où les recompositions électoralistes, la clientèle, etc., tout le monde pourrait le dire à la limite. Mais ce qui fait que nous, on comprend ça d'un point de vue déterministe de lutte de classe dans le grand schéma de la révolution communiste, c'est qu'on comprend qu'il y a un développement de la médiation, de l'abstraction, qui fait que de Madeleine Albright avec Hillary Clinton qui disait à l'époque, à la première élection de Trump, que si vous êtes une femme et que vous ne votez pas pour elle, vous avez une place spéciale en enfer pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes plus femme, vous n'êtes plus un être de jouissance, etc., immédiate, incarné, vous êtes la catégorie abstraite de l'équivalent abstrait, femme. Et Biden, pareil, c'est si vous êtes noir et que vous ne votez pas pour moi, vous n'êtes pas noir. Donc on retombe sur la crise de l'équivalent abstrait, c'est-à-dire que depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, il y a une force d'abstraction qui correspond à l'abstraction de la valeur d'échange qui font que les hommes, alors au début en Grèce, on a le génos, donc la communauté organique de l'enraciné normal, c'est-à-dire qu'on a le linéage, la logique de la logique du clan. Donc on sait d'où on vient d'un point de vue biologique et on passe dans une abstraction avec le regroupement dans les villes, etc., la division du travail avec la réforme de Solon et de Clisthène. Quelque part, on commence à être un peu plus désenraciné, mais on est désenraciné dans une organisation urbaine qui fait que on est selon une division du travail qui est forcément une abstraction puisqu'on n'est plus homme d'incarnation, on est catégorie pratique de production, mais on est encore assigné à quelque part à une ville, c'est-à-dire que c'est Héraclite d'Éphèse. Éphèse, elle existe bien, elle est tactile, elle est concrète. On passe un saut avec l'Empire romain, avec justement l'Urbs qui est le monde de l'Empire, où qu'on habite à Rome ou qu'on n'habite pas à Rome, on est citoyen romain. Donc on a cette excroissance de l'équivalent, de l'abstrait, de la médiation, qui fait que petit à petit, à toutes les époques, on devient de plus en plus abstrait, on devient un concept, une catégorie, on n'existe plus en tant qu'être humain.
On est du bref.
Voilà, c'est la chosification, le lent développement de la chosification. Et le fait qu'il y ait une crise, alors qu'il y a tout ce tapage médiatique, Black Lives Matter, antiraciste, etc., il y a une crise de cette chose qui fait que, quelque part, malgré toute l'hégémonie, la toute puissance médiatique de ces mouvements-là, quelque part, ils n'arrivent même plus à maintenir cette force d'attraction où les gens ne seraient que leur couleur de peau, que leur catégorie clientéliste de reproduction du capital. Donc, quelque part, on peut l'analyser comme quelque chose, une victoire pour Trump d'un point de vue électoraliste, mais nous, on s'en fout de l'électoralisme, on est communiste. Mais on voit quelque part que dans ce petit détail, il y a des grandes portes qui font qu'on voit quelque part le développement de ce qu'on disait déjà de début, c'est-à-dire la crise de l'équivalent abstrait, elle est partout. Elle est généralisée.
Et là, si vous voulez, on peut faire un lien dialectique transcontinental entre Terra Nova en France, Boris Johnson en Angleterre et Trump aux États-Unis. C'est-à-dire que la décennie qui vient de se terminer a totalement vidé la gauche de son territoire de mystification prolétarien. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui l'Angleterre de Boris Johnson, il a totalement invalidé le cheminement des classifications thatcheristes classiques. Le parti travailliste a ses clientèles immigrées, mais le prolétariat anglais se retrouve derrière Boris Johnson, alors que le prolétariat anglais ne pouvait pas se retrouver derrière Madame Thatcher. C'est-à-dire qu'il y a une recomposition électorale totale. Le prolétariat en France, il a totalement quitté le PS et le PC qui n'existent plus. La France insoumise, qui a quelques fonctionnaires déliquescents, mais qui recrute essentiellement dans les clientèles immigrées des banlieues préférées. Le prolétariat, il est parti dans l'abstention ou il est au Rassemblement national. Il n'y a plus de prolo à gauche. Il n'y a plus de prolo à gauche en Angleterre Et tous les grands États du Middle West qui fournissaient une clientèle ouvrière au Parti démocrate ont basculé chez Trump. Donc, tout ça, c'est du jeu électoral. Ça ne nous intéresse qu'en tant que ça nous donne une base d'analyse pour aller vers la lutte de classe et l'abolition du jeu électoral, mais c'est décisif. Ça veut dire que tout s'est reconfiguré, que quand nous disons que la gauche a été le grand laboratoire de recherche du capital et le meilleur allié de la classe capitaliste, c'est une réalité. C'est les forces de gauche et d'extrême gauche qui ont appelé à la boucherie mondiale de 14 avec Pierre Kropotkine. C'est les forces de gauche et d'extrême gauche qui ont appelé au grand charnier impérialiste de la Seconde Guerre mondiale dans toute la mythologie antifasciste. Et au fil du temps, le prolétariat a pris ses valises et puis il est parti. Et aujourd'hui, quand la gauche se regarde, il lui reste les immigrés, les LGBT, les féministes, les bobos écolos verts, mais il n'y a plus de prolos.
C'est la même chose
en France, en Angleterre et aux États-Unis. Et ça, ce n'est pas la révolution, mais c'est les podromes d'une réorganisation sociale du champ historique qui disent que le prolétariat, dans la longue durée, est en train de produire un quelque chose qui fait que il a compris, même s'il ne l'a pas théorisé d'une manière substantielle, que la gauche, c'est le pire ennemi du prolétariat. Et d'ailleurs, c'est toujours la gauche qui fait fusiller le prolétariat. N'oublions jamais que c'est le SPD qui a fait assassiner Rosa Luxembourg.
Et c'est dans ce que vous dites aussi qu'on voit que malgré tout, le prolétariat français est en avance dans la lutte des classes. Parce que là, on voit dans l'apparence surfacière des choses, on pourrait se dire « Ah ben, là, il se passe des choses aux États-Unis, mais il ne se passe rien en France. » Mais en réalité, c'est faux. Aux États-Unis, il y a effectivement des conflictualités électorales bidons, où il y a des mecs qui s'écharpent pour soit Biden, soit Trump, ils s'arrachent des drapeaux américains dans des bagnoles à la con. En France, le prolétariat a arrêté de voter. Quelque part, il sait que tout ça, c'est de la merde. Le prolétariat américain, il est encore dans un choix binaire à la con. Et donc, le prolétariat français est en avance dans sa lutte de classe, il est en avance dans sa compréhension, et quand bien même actuellement, certes, il ne se passe pas grand-chose, entre guillemets, Marx sait et a dit, pour des raisons déterministes et objectives, que c'est en Europe et particulièrement en France que les luttes de classe ressurgiront en premier. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, et c'est cette perspective-là qui doit nous faire aimer, en fait, cette époque, malgré son insipidité totale, parce qu'on sait que la révolution arrive et qu'elle arrive en France.
Alors, non seulement c'est en Europe que les luttes de classe les plus radicales surviendront en premier et de manière massive, mais c'est surtout là que le théâtre des opérations sera décisif. Parce que c'est le continent européen qui va être précisément ce pôle d'avancement radical pour le prolétariat mondial. C'est-à-dire que la révolution mondiale se jouera centralement sur le continent européen, dans le cadre justement de la composition organique, des technologies, de l'histoire, de la maturation sociale et des capacités insurrectionnelles de la classe prolétarienne. Donc tout va se jouer là, tout va se jouer là. Alors, juste par rapport à la question que vous aviez posée au début sur la crise terminale, il faut bien comprendre que la crise terminale, c'est pas une crise de l'impossible restructuration du capital qui épouse les temporalités des crises de possible restructuration du capital. C'est-à-dire que le capital rencontre dans toute son existence, depuis qu'il s'est développé dans le champ de la domination formelle qui mène du XIIIe siècle à aujourd'hui, deux types de crises. Il y a des crises qui sont des crises où le capital peut se restructurer parce que la composition organique, parce que la dialectique générale de la baisse du taux de profit fait que le cycle de la valorisation peut redémarrer parce que le poids de la dévalorisation n'est pas arrivé à produire une phagocytose irrémédiable et définitive. Et il y a un moment donné dans l'histoire, c'est la crise terminale, où le capital a produit une telle phagocytose du travail vivant par le travail mort que le champ dialectique de la valorisation est totalement surdéterminé et étouffé par celui de la dévalorisation. Et donc, qu'est-ce qui définit la crise terminale ? C'est que c'est la crise de l'impossible reproduction du capital. C'est donc la crise qui rend impossible toute restructuration supérieure. Le capital au XIIIe siècle, ce n'est pas le capital du XIVe. Le capital du XIVe, ce n'est pas le capital du XVe. Le capital, il avance siècle par siècle. Il se modernise, sa technologie, sa politique, son économie, ses structures sociales, la manière dont s'organise le fétichisme de la marchandise s'élabore d'une manière plus pointue, d'une manière plus déployée. Le capital, il bouge tout le temps. C'est ça la dialectique. Le capital, constamment, abolit un moment de son histoire pour en produire un autre ultérieur qui reprend le précédent aboli, mais qui le reprend pour le pousser plus loin, puis ainsi de suite. Il y a donc constamment des restructurations. Le capital est une temporalité dialectique permanente de restructuration supérieure. Le capital n'arrête pas de se restructurer. Quand on marche vers la guerre de 14 et que la machine-outil allemande supplante la machine-outil anglaise, il y a une restructuration technologique supérieure. Quand au sortir de la guerre de 14-18, la République de Weimar et l'Angleterre tournée vers l'Amérique se restructurent commercialement, industriellement, c'est une restructuration supérieure. Et il y a un temps dialectique où la restructuration supérieure devient impossible. C'est la crise terminale. Et c'est la crise terminale parce que la restructuration supérieure rend impossible la reproduction de l'implication réciproque prolétariat-capital. C'est le prolétariat qui fait le capital, c'est le capital qui reproduit le prolétariat. Donc, la crise terminale, qui est annoncée par les taux d'intérêt négatifs et par la paralysie globale du capital dans le champ de la mystification étatique du coronavirus, c'est quoi ? C'est l'impossible restructuration supérieure. Donc, la réinitialisation du forum de Davos, c'est effectivement une chimère parce que c'est l'impossible restructuration supérieure. Mais l'impossible restructuration supérieure, étant donné que c'est un cycle, c'est même plus qu'un cycle, c'est le surgissement de la décadence finale. Le capital est rentré en décadence en 1914, puisqu'à partir de 1914, il devient plus autodestructif qu'hétérodestructif. Mais la crise terminale, c'est le moment où justement la restructuration supérieure ne se fait pas. Mais si elle ne se fait pas, ça signifie que le temps précipité du capital est un temps qui se déprécipite. Donc, quand le capital passait à une restructuration supérieure, on était dans un mode de reproduction élargi, dans un temps rapide. Parce que le cycle du capital produisait la dialectique de sa reproduction. Par contre, la crise de l'impossible reproduction prolétariat-capital, la crise de l'impossible restructuration supérieure, ce n'est pas un moment, c'est nécessairement une longue dilution, puisque c'est la confrontation du temps précipité à l'impossibilité de précipiter à nouveau le temps. Donc l'idée que la crise terminale du capital, parce qu'on commence à entrer dedans, c'est un temps court, c'est une erreur. C'est précisément un temps d'extériorisation contradictoire extrêmement complexe, parce que c'est la confrontation entre le temps précipité et le temps lent. Donc, il faut mesurer dialectiquement qu'on rentre dans une catégorie de type particulier et que quand on dit le capital nous signale aujourd'hui qu'on est rentré en crise terminale, la crise terminale, ça peut être des décennies entières, parce que le passage à l'arrêt absolu du temps précipité, c'est quelque chose qui travaille dans le temps non précipité, puisque c'est une dialectique d'auto-invalidation du temps précipité.
Et puis il faut se dire que si on a parlé la semaine dernière par rapport à Hegel et Marx avec le surgissement de la dialectique en tant que révolution permanente qui apparaît avec la révolution permanente du capital à partir de 89. Et le temps de décalage avec 1848, avec le surgissement du prolétariat. C'est-à-dire que la crise terminale, c'est un peu comme ça, mais c'est encore poussé à l'extrême. C'est-à-dire que le capital surgit comme force révolutionnaire très bien. Il y a le prolétariat qui s'affirme en tant qu'il est la force de négation qui est le produit immanent du capital. Mais la crise terminale, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire qu'on ne ferme même pas juste la parenthèse du capital, on ferme la parenthèse de toute la civilisation humaine. C'est-à-dire que Marx le détaille un peu dans l'idéologie allemande, c'est toutes les classes révolutionnaires ont fait des révolutions presque inconsciemment. C'est-à-dire qu'ils théorisent les moyens de justification de leur pouvoir politique, d'ailleurs, de leur domination de classe. Avec les Lumières, etc., on théorise quelque part la prédominance de la raison, de la raison marchande sur ce qu'on appelle l'obscurantisme religieux, le catholicisme, la concentration du pouvoir, la monarchie absolue. Mais il n'y a pas une théorisation complète de la place de l'humanité dans le grand arc de la dialectique de l'histoire. Le capital, dans sa crise, va demander un effort colossal. L'humanité va se retrouver à un niveau largement supérieur dans cette crise finale qui prendra du temps long, que par rapport à la Révolution française. La Révolution française, on est bourgeois numéro 1, bourgeois numéro 2, on parle l'idéologie du capital, mais entre guillemets, tout coule. On est juste le fruit idéologique du temps qui arrive. Là, le prolétariat, il va devoir faire l'effort gigantesque de passer de « je ne suis rien » à « je suis tout ». Et ça, c'est gigantesque, c'est un moment de césure incroyable pour l'humanité, et ça va surtout se passer aussi dans des... Faut bien se dire que ça se passe pas en un jour, d'entre l'aspect négatif de la crise qui est la destruction du capital, et l'aspect positif qui est l'affirmation du communisme comme solution de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a forcément un décalage, mais en plus il y a un décalage géographique. C'est-à-dire que ça se passera d'abord en Europe, en France, etc. Et puis, il y aura tout un temps révolutionnaire qui fera que bah, forcément, si le capital, si la révolution commence, c'est pas en un jour.
Et puis entre cette chute effective de l'économie et de la structuration bancaire, de la structuration du travail et la révolution en tant que telle, il y a aussi ce que Marx appelle l'inertie des rapports sociaux. L'inertie des rapports sociaux, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, on verra peut-être même dans cette crise terminale des gens qui n'ont plus de salaire qui vont continuer d'aller travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez un mec qui a une ferme je ne sais où dans le nord de la France, le mec il gagne moins que s'il était au RSA, mais il continue de travailler. C'est-à-dire qu'il y a une inertie, il y a un acharnement à vouloir effectivement faire perdurer des rapports sociaux qui sont déjà morts, qui est ce que Marx appelle l'inertie des rapports sociaux, mais qui est incroyable et qui est impensable.
C'est-à-dire alors pour le paysan, ça se comprend, parce que si vous voulez, on a vu des salariés continuer à travailler gratuitement pour des usines qui ne pouvaient plus les rétribuer. Ça s'arrête nettement avant le paysan. Parce que le paysan, il y a un enracinement charnel à un territoire, à une émotion. Donc, la prolétarisation paysanne est encore plus intensive. Parce que justement, il y a l'illusion par l'enracinement et la terre d'une identité. Le type qui travaille dans une usine de pneus et qui n'est pas payé au bout de 3-4 mois, ça commence à chauffer. Mais le paysan prolétarisé dans son identité individuelle, avec ses vaches, avec ses chèvres, ça peut durer très 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 longtemps. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des masses entières, de paysans qui aujourd'hui ont dépassé le dessous 300 euros, le dessous 200 euros, et il y en a même qui n'ont même plus rien. Ils vivent avec leurs œufs, ils vivent avec leurs poules. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prolétarisation. C'est pour ça que les dernières sectes gauchistes en décomposition, quand le mouvement des Gilets jaunes a eu lieu, n'ont strictement rien compris aux Gilets jaunes, parce qu'ils étaient encore restés sur la définition du prolétariat industriel de la domination formelle. Ils n'ont pas compris que l'auto-entrepreneur, le paysan prolétarisé ou le plombier artisanal prolétarisé était rentré dans le prolétariat universel de la domination réelle.
Et puis on a dans le cadre de la mise en friche qu'on a actuellement, on a toutes les franges qui étaient encore dans des capacités d'indépendance, les petits commerçants, les restaurateurs, etc. Ces gens qui sont considérés du point de vue du capital mondial comme étant du capital excédentaire, dans une mise en friche qui ne terminera pas puisque le capital ne pourra jamais se nettoyer de ce qu'il a généré comme fictivité totale, on arrive aussi dans une période où justement on ira jusqu'à la prolétarisation absolue de l'espèce humaine. C'est-à-dire que toutes les phases intermédiaires qui n'est pas la reproduction fictive où en gros on attend que la planche à billets vienne rentabiliser des investissements fictifs qui ne veulent rien dire, et tout ce qu'il y a entre ça et le prolétariat comme il est exploité le plus quotidiennement à rembourser des crédits, des dettes, etc., toutes ces franges intermédiaires vont petit à petit mourir. Donc ça prend du temps aussi. Qui n'ira nulle part, puisque la mise en friche, on l'a dit tout à l'heure, n'ira nulle part. Mais il y a tout ce moment de destruction, et on ira au bout de ces destructions. Et ça ne se passera pas d'un jour au lendemain.
Par rapport à ce que vous disiez sur le temps long, alors il faut encore en revenir à l'émission que nous avons faite sur la dialectique telle qu'elle doit s'appliquer au capital, parce que toute lecture, toute lecture du capital qui n'est pas dialectique aboutit au subjectivisme, à l'immédiatisme et à la contre-révolution. Donc, comprendre le concept dialectique de substance, de pour soi, dans soi, de retour à soi, on l'a vu tout à l'heure quand on a discuté des crises successives qui avaient affecté les formes phénoménales de l'équivalent général abstrait, mais pas l'équivalent général abstrait lui-même. C'est-à-dire que la crise terminale, c'est le moment où l'équivalent général abstrait, en tant qu'universalité conceptuelle, en tant qu'autogénération de la domestication mondiale, vient s'invalider. Et toutes les crises qu'il y a eu avant n'ont été que des crises de sa manifestation monétaire en un temps donné, au regard de la baisse du taux de profit, au regard de la composition organique, au regard effectivement de la saturation des marchés. On a eu la crise de la livre sterling, la crise du dollar, la crise des changes fixes, ensuite on a eu la crise des changes flottants. Bon, l'équivalent général dans ces formes phénoménales est toujours en crise. Et à un moment donné, on touche les taux d'intérêt négatifs. Entre les taux d'intérêt négatifs et la crise de l'équivalent général abstrait, qui est la crise du fétichisme de la marchandise universelle, quelles que soient ses formes phénoménales. Il faut qu'il y ait eu la crise de ces dernières formes phénoménales. Il y a donc à un moment donné où le forum de Davos, malgré tous ses délires de réinitialisation, va nous montrer que les maîtres du monde, ça n'existe pas. Il y a une maîtrise du monde qui s'appelle le fétichisme de la marchandise, et ceux qui se fantasment maîtres du monde ne sont que les larbins de la marchandise. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Et entre la crise maintenant, taux d'intérêt négatif, coronavirus, et la crise de l'équivalent général abstrait universel de la phase terminale enfin accélérée du capital, on va rencontrer deux crises qui vont produire une synthèse dialectique. C'est la crise définitive du dollar et c'est la crise définitive de l'euro. Parce qu'il faut se rappeler que toute cette réalité impérialiste du gouvernement du spectacle mondial, depuis 1973, à travers les accords de la Jamaïque, avec toute la dynamique nixonienne de refondation du jeu d'échange fixe flottant, elle nous amène à 2018. Donc, l'impérialisme du billet vert, dans le cadre de toutes les fictivités de la surproduction du capital, de la baisse du taux de profit et de la saturation des marchés, elle va avoir un point de cristallisation définitive. Nous avons retenu, tel que c'est posé dans le livre 3, tel que c'est posé dans les Grundrisse et dans le livre 4, qu'au terme du parcours dialectique du capital, je n'ai plus la crise d'une partie du capital, je n'ai plus la crise d'une époque du capital, mais j'ai la crise du capital en tant que totalité possible historique. Et donc, la crise du capital en tant que crise du capital comme totalité historique, c'est la crise du fétichisme de la marchandise, c'est donc la crise de toutes les phénoménalités possibles du fétichisme de la marchandise. Et les deux dernières, dans le jeu géopolitique mondial, dans cette forme qui cristallise le rapport de domination qui s'est mis en place après 1945 jusqu'à aujourd'hui, dans les refontes successives, c'est le dollar et l'euro. Donc, à quel moment l'effondrement total du dollar, à quel moment l'effondrement total de l'euro, crise du coronavirus, état sanitaire de contrôle politique sans fin, année 2021, forum de Davos, l'année 2021 va nous donner les temporalités concrètes des processus d'invalidation du dollar et de l'euro. Et là, j'ai une accélération du temps historique de la géopolitique de l'aliénation en crise, et j'ai donc derrière le surgissement du prolétariat. Le prolétariat ne va pas ressurgir massivement comme ça, par hasard. Il va ressurgir parce que dans l'implication prolétariat-capital, les structurations phénoménales de l'équivalent général abstrait dans la géopolitique des monnaies qui permet la géopolitique de la reconduction des industries et donc de la géopolitique des commerces qui font le marché planétaire mondial vont s'invalider. Donc tout se tient. Le capital nous a appris qu'il y a une logique, que tout est logique. Il n'y a pas de hasard. Tout se tient. C'est une nécessité inéluctable. Et donc les réponses, quand est-ce que ça va ressurgir? comment ça va se ressurgir, elles sont liées dans cette incarnation dialectique que pose le Capital, dans les questions dialectiques, dans les réponses dialectiques, dans la compréhension dialectique. Tout ce qui pose les questions et les réponses dans le champ dialectique trouve la réponse révolutionnaire du devenir qui vient. Si par contre je sors de ce cheminement-là, alors je suis paumé, j'ai pas de solution.
En tout cas, nous, comme on ne veut pas être dépaumé sans solution, on vous invite à nos prochaines émissions très prochainement et on vous remercie.
Et surtout à lire, et surtout à lire. Mais alors, à lire d'une manière radicale, à lire d'une manière dialectique. Il y a deux lectures. Il y a la lecture empirique, immédiatiste, et il y a la lecture dialectique. Quand Marx termine en disant « Toute mon œuvre est une œuvre dialectique parce qu'elle est l'expression de l'autodestruction du capital et que cette autodestruction est inévitable », tout est dit. Quand je rentre dans le capital, je ne rentre pas dans un truc de tendance et de contre-tendance, je rentre dans une unité dialectique d'auto-abolition inéluctable. Et donc, les mois qui viennent, dans les émissions, nous verrons l'inéluctabilité de cette autodestruction, mais qu'il faut analyser avec méthode, avec rigueur et avec culture.
À très bientôt.